Vous êtes sur RTL.
9 minutes, place maintenant à Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci beaucoup Julien Cellier. Bon week-end à toute l'équipe de Nos Petits Matins et bonjour à tous. Nous allons bien entendu revenir ce matin sur les annonces faites par le Premier ministre Jean Castex hier soir. Opération ciblée, notamment dans le Pas-de-Calais, alors que les différentes firmes préparent l'arrivée des vaccins en masse. Mais ce matin, je veux aussi attirer votre attention sur le voyage historique du pape François en Irak à 84 ans. Et malgré des problèmes de santé, le souverain pontife va donc commencer sa première visite en tant que souverain de la paix dans cette terre où les chrétiens sont présents depuis plus de 2000 ans. Nous allons largement y revenir et à 8h20 vous pourrez entendre le reportage très impressionnant d'Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux sur le retour des chrétiens dans la région de Mossoul. Les attaques de Daesh les ont fait fuir et pourtant une partie d'entre eux reviennent. Ils étaient 1,5 million à la chute de Saddam Hussein, entre 3 et 400 000 aujourd'hui. Rendez-vous donc dès 8h20. L'autre rendez-vous de cette matinale est celui de l'invité politique d'RTL. À 7h40, Alba Ventura reçoit le secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune. La guerre de l'accès au vaccin est ouverte au sein même de l'Europe, la situation en Birmanie. En revanche, juste auparavant, François Langlais nous expliquera pourquoi le match France-Angleterre sur le plan économique est largement en train de tourner à l'avantage des Britanniques. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021. À tout de suite. Bonne journée à tous, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tensa. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? La question n'est plus taboue à l'Élysée, tant le constat semble préoccupant.
À peine 30% du personnel médical vacciné dans les hôpitaux, ils sont pourtant prioritaires. Comme prévu, le Pas-de-Calais sera reconfiné les 4 prochains week-ends. 23 départements au total en surveillance et la fermeture imposée de nouveaux magasins. Une visite historique, celle du pape François, attendue aujourd'hui en Irak, sur les terres des chrétiens chassés par Daesh. Et puis, ils ne veulent pas habiter rue Jacques Chirac. La colère des habitants d'Aulnay-sous-Bois après la décision de la mairie de rebaptiser une rue en hommage à l'ancien président.
La politique, Olivier Bost.
On va forcément reparler de cette vaccination obligatoire. Et oui, le débat revient.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ils sont un maillon essentiel de la chaîne et pourtant, les professionnels de santé rechignent toujours autant à se faire vacciner. Les derniers chiffres le prouvent dans les EHPAD où le virus, on le sait, circule de manière très active. Seuls 40% du personnel a accepté la vaccination. Clairement, ça ne suffit pas à limiter les risques. Le message a de nouveau été martelé hier par Jean Castex.
Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée puisse retrouver sa pleine dimension, il faudra que les personnels de ces établissements se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement.
Un constat tout aussi préoccupant dans les hôpitaux, où là le taux de vaccination du personnel médical ne dépasse pas les 30%. C'est le cas chez vous, notamment à Marseille, Hugo Hamelin. Ils sont pourtant prioritaires, mais préfèrent passer leur tour.
Oui, il y a encore une majorité de réticents, comme Pascale Jourdan, infirmière en quartier CGT.
C'est un peu normal, on ne connaît pas encore les effets secondaires, les retombées de ces vaccins. Le personnel soignant, il est au même titre que tout citoyen, et il est inquiet aussi.
Avec ce marqueur social, les médecins se font plus vacciner que les infirmières ou les aides-soignants. Michel dirige un service de pédiatrie.
Je connais cette réticence d'une partie du personnel à se faire vacciner. J'essaye de les convaincre en leur rappelant que la vaccination, c'est la base de la médecine qui sauve les gens.
Comment on explique qu'il y ait une telle défiance?
Je pense que c'est, comme beaucoup, partie de la population, une chose méconnue et avec des craintes non justifiées. Et puis l'oubli des apports majeurs qu'apportent les vaccins.
Avec pourtant une importante campagne de communication, panneaux d'affichage, mail et maintenant cette lettre d'Olivier Véran pour convaincre les 70% d'hospitaliers qui refusent de se faire vacciner.
Un reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
70% des chiffres hallucinants.
Les pharmaciens, eux, attendaient le feu vert depuis des semaines. Ils pourront commencer à vacciner dès le 15 mars. Ce sont 20 millions de Français au total qui devraient avoir reçu au moins la première injection d'ici la mi-mai, promet le gouvernement.
Les habitants du Pas-de-Calais, eux, s'y attendaient. Ils seront reconfinés dès ce soir.
Et ce sera comme ça tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de mars, début avril. 23 départements au total désormais placés sous surveillance renforcée avec dorénavant de nouvelles fermetures. Elles concernent tous les magasins de plus de 10 000 mètres carrés non alimentaires. La jauge était fixée à 20 000 mètres carrés précédemment et ça risque de changer pas mal d'habitudes, Armelle Lévy.
Oui, depuis plus d'un mois, ce sont déjà 25 000 magasins qui sont fermés dans les plus grands centres commerciaux. La liste va donc s'allonger ce soir avec la fermeture des magasins et centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés dans les 22 départements à risque. Et dans le Pas-de-Calais, ce sont tous les centres commerciaux qui vont fermer leurs portes, sachant qu'ils comptent au minimum 20 boutiques. Mais la mesure s'applique aussi aux grands magasins, des enseignes de sport également, des grandes surfaces de bricolage, d'électronique et informatique, d'électroménager, qui étaient jusqu'à présent épargnés pendant les confinements. Ils avaient le droit de rester ouverts puisqu'ils étaient classés comme essentiels. Ces magasins vont donc fermer leurs portes ce soir, mais sans savoir pour combien de temps, sans avoir de perspective de réouverture.
Armel Lévy pour RTL. Dans l'actualité également, ces violents affrontements à Lyon, hier entre des jeunes du quartier sensible de la Duchère et les forces de l'ordre. Des tensions qui font suite à l'accident d'un jeune de 13 ans la veille, qui roulait à scooter sans casque. Ses amis assurent qu'il était poursuivi par une voiture de police banalisée. La préfecture a formellement démenti.
7h05, c'est la première visite d'un souverain pontife en Irak. Le pape François est attendu aujourd'hui à Bagdad.
Le pays meurtri par 3 décennies de guerre et dont les chrétiens avaient été chassés durant le règne de Daesh. Depuis la chute de l'État islamique, quelques-uns sont revenus sur leurs terres, ont tenté de reconstruire leur vie en partant souvent de rien. La plupart des maisons ont été détruites. À Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, certains ont trouvé refuge dans un centre commercial. Pour RTL, Émilie Beaujard les a rencontrés.
Il faut d'abord passer au milieu des magasins de vêtements pour ensuite monter au 4e étage. Sur la coursive, des portes et des numéros. Au 438, c'est Ramez qui nous ouvre. Il vit dans un petit 2 pièces avec sa femme et ses 2 enfants.
Notre vie est très difficile. Je suis soldat, mais avec le coronavirus, nous ne sommes plus payés tous les mois. Donc, pour pouvoir faire vivre ma famille, je vends ces petits oiseaux au marché le vendredi.
Ramez a d'abord quitté Bagdad en 2006, puis Mossoul en 2014. À chaque fois, il a fallu tout reconstruire, tout recommencer.
Personne ne nous aide. Alors repartir à Bagdad ou Mossoul, ce n'est pas une option. Je veux juste vivre quelque part en sécurité. Et pour l'instant, c'est ici au Kurdistan que je me sens bien.
Dans l'appartement d'à côté, son cousin Anna se prépare à suivre la visite du pape à la télé. Très critique, il accuse le gouvernement irakien de corruption et de ne pas protéger les chrétiens.
On avait une maison à Bagdad, mais on nous a chassés. Dans mon quartier, il y avait 5 églises. Elles sont vides aujourd'hui et plus personne n'ose y aller.
Pour l'instant, les 2 cousins s'en sortent car ils ne paient pas de loyer, seulement les factures. Mais dans 3 mois, il leur faudra à nouveau partir car le propriétaire de l'immeuble a décidé de récupérer les appartements.
Émilie Beaujard avec Jonathan Griveaux, les envoyés spéciaux d'RTL en Irak. Vous pourrez retrouver le reportage en intégralité à 8h20 dans la région de Mossoul.
L'alerte au tsunami finalement levée cette nuit en Nouvelle-Calédonie et dans tous les territoires français du Pacifique. Un puissant séisme au large de l'archipel avait fait craindre de gros dégâts. La population du littoral a dû être évacuée. Finalement, plus de peur que de mal.
Et voilà un changement de nom qui crée la discorde à Aulnay-sous-Bois. Les habitants ne veulent pas vivre rue Jacques Chirac. Reportage dans un instant.
RTL Matin.
7h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Ils n'ont pas eu leur mot à dire et ils le regrettent amèrement.
Ces riverains d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis habitent depuis lundi rue Jacques Chirac. La mairie a décidé de rebaptiser la petite artère en hommage à l'ancien président de la République. Un détail qui a son importance, l'ancienne rue s'appelait Maxime Gorki, oui. Du nom de célèbre écrivain soviétique. Un changement de nom et d'ambiance qui provoque la colère du quartier Mourad Jabari.
Oui, une rue étroite, tranquille, bordée de petites maisons, dans un quartier paisible. Une voie longue d'un demi-kilomètre de discorde, de regrets et de colère. Marie-France et Jean-Jacques habitent là depuis plus de 50 ans.
On est bon de vous, parce que quand même,
ça nous est tombé dessus, quoi.
Ça nous est tombé dessus.
Il n'y a pas eu de concertation.
J'ai même cru que c'était une plaisanterie.
On est à une époque où on y tient, c'est l'histoire de la ville. Vous avez toutes les rues, là, c'est pareil. Paul Vaillant Couturier, Roger Salengro, Henri Barbus.
C'est pas contre Jacques Chirac.
J'apprécie pas plus Jacques Chirac que ça. Hein. Il aimait beaucoup le salon de l'agriculture, aller tâter le cul des vaches. Bon.
Moins fan du président Chirac, Jean-Jacques est plutôt amateur de l'écrivain communiste.
J'ai un livre de Maxime Gorki.
Alors que Christian, son voisin, lui, pense plutôt à son courrier.
On va avoir des complications à faire les papiers de tout ce qu'il faut pour nous mettre en règle. C'est pas le fait du nom. Il faut faire des paperasses, il y a des voitures, il y a des papiers, il y a la sécu, il y a les impôts. C'est énorme, quoi.
Et puis, pas très loin d'ici, il y a quelques semaines, un square a été rebaptisé. L'homme fait visiblement un peu plus l'unanimité. C'est le square Johnny Hallyday.
En reportage signé Mourad Jabari. Il avait toujours clamé l'innocence de son chien Curtis, le compagnon d'Elisa Pilarski, a été mis en examen hier pour homicide involontaire. La justice lui reproche d'avoir fait preuve de négligence au moment du dressage, ce qui pourrait avoir causé la mort de la jeune femme alors qu'elle promenait le molosse dans une forêt en novembre 2019. Son corps avait été retrouvé portant des marques de morsure.
RTL, il est 7h10.
Le salon de l'agriculture. et sur RTL.
Toute la semaine, RTL vous aura permis de vivre ce salon de l'agriculture qui, en raison des contraintes sanitaires, vous le savez, a été cette année annulé. Ce matin, nous vous emmenons dans une échoppe où le maître mot est circuit court. Cela veut dire que ce magasin est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ce qui permet aux agriculteurs d'être rémunérés plus justement. Le nom de cette boutique, Au Fermier, située dans le 17e arrondissement de Paris. Visite guidée avec vous, Agathe Landais.
Et à première vue, c'est un supermarché classique, comme beaucoup d'enseignes écolo. Sauf qu'à l'intérieur, tous les produits viennent de circuits courts. C'est ce qui d'ailleurs a séduit Julie, une riveraine.
J'allais à mon carrefour habituel et j'ai vu ce magasin qui avait l'air bien plus intéressant. Tout a l'air très très bon, je vais goûter ça ce soir. Mais ouais, c'est des bons produits. Après, il faut que je regarde plus d'où ça vient, parce que je préfère les circuits courts. Ça me plaît beaucoup en effet.
Et justement ici, des pancartes sont affichées près de chaque produit pour renseigner de quelle fermier il provient. On a même des photos des producteurs comme Cédric Joliveau, 37 ans et maraîcher dans le Loiret.
Donc là, vous allez avoir les pommes de terre, les carottes, les oignons, les échalotes. J'avais essayé de faire des légumes comme un petit papy le faisait dans son jardin, quoi. On les force pas, c'est tout. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des rendements 3-4 fois moins importants que les autres, mais en vendant directement sur les marchés ou dans des petites structures comme ça, on peut s'en sortir. Hein.
Bon, allez.
Bon,
bon,
ok, ça marche.
Samedi prochain.
Salut Cédric, allez, bonne route.
Trois fois par semaine, Cédric livre ce magasin tenu par Damien Bogard.
On a une quinzaine de producteurs qui s'en sortent financièrement. Et après, on en a 80 où c'est comme Cédric, ils sont tout seuls en fait, où c'est pas évident de distribuer et commercialiser les produits. L'idée, voilà, c'est que ça soit abordable pour le consommateur et que le producteur puisse vivre décemment de son métier, quoi. Donc, du coup, dans le magasin, on discute jamais les prix. J'estime qu'il n'y a pas mieux placé qu'eux pour savoir le prix qu'ils ont besoin pour vivre, quoi.
En moyenne, 65% du prix fixé revient au producteur. Le reste va au magasin. Au Fermier a d'ailleurs été créé par Damien avec trois agriculteurs qui détiennent aujourd'hui la moitié de l'entreprise.
Un reportage signé Agathe Landais.
On va terminer avec les courses, elles ont lieu à Laval.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 7, le 3, le 10, le 9, le 8 et le 16. La dernière minute, c'est le 3, Enzo Dessart.
Mais oui, c'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h13, la politique, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Faut-il rendre la vaccination des soignants obligatoire avant d'y penser pour tous les Français, Olivier?
Alors, Olivier Véran, très tôt, à la rentrée dernière, expliquait que c'était impossible, sinon certains soignants allaient se mettre en arrêt maladie ou carrément démissionner. Ce n'est pas le moment de perdre des bras dans les hôpitaux, expliquait alors le ministre de la Santé. Quant à une obligation nationale, la crainte des anti-vaccins avait pétrifié, souvenez-vous, jusqu'au sommet de l'État. Un blocage que regrette un conseiller de l'époque, car la vaccination aujourd'hui est considérée comme la seule piste pour vraiment s'en sortir. Si bien que le gouvernement n'exclut pas de tordre le bras aux soignants réticents, et là forcément le ton va changer. Il faut dire qu'à peine un soignant sur trois est aujourd'hui vacciné, alors que des doses attendent dans les frigos. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'organisation, mais il n'y a pas d'emballement non plus. À l'hôpital, des patients venus pour tout autre chose y attrapent le Covid. Ce n'est pas un petit phénomène, il a été étudié. Nous pourrions croire que travailler dans le secteur médical rendait moins réticent à la vaccination. Il n'en est rien. Le vaccin pour les soignants pourrait donc, s'il y a toujours trop de résistance, devenir obligatoire.
Alors voilà pour les soignants et pour tous les Français.
Alors là encore, ça pourrait revenir dans le débat. Ce qu'a en tête le gouvernement, c'est un pass sanitaire, un pass vaccinal qu'il faudrait présenter pour accéder aux restaurants, aux concerts, au cinéma. L'idée avait fortement ému il y a 2 mois lorsqu'elle avait été glissée dans un projet de loi en plein pendant les vacances de Noël. 2 mois plus tard, la même idée refait surface. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction outrée. L'envie de retrouver une vie normale va peut-être l'emporter, sortir de ces confinements couvre-feux interminables.
Alors évidemment, est-ce que ça n'est pas prématuré cette idée de passe, même si on peut la trouver intéressante, parce qu'il faut des vaccins pour tout le monde, hein.
Oui, alors ça c'est la première condition, vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas restreindre la vie de ceux qui ne sont pas vaccinés s'ils ne peuvent pas l'être. Ça c'est une évidence. Mais il faut pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Si dans les faits, on ne peut accéder à des lieux sans être vacciné. Bah, ça vient à rendre obligatoire, sans le dire, la vaccination. Oui. En tout cas pour vivre, quoi. Nous avons donc encore un peu de temps pour en discuter. En fait, si Emmanuel Macron relance cette idée de passe sanitaire dès aujourd'hui, c'est parce qu'il permet de dégager un horizon, de se dire qu'après un printemps éprouvant, il y a l'espoir d'un été bien plus serein. Réussir la vaccination, le retour à une vie plus normale, un peu moins contraignante, c'est un enjeu politique très fort pour le chef de l'État. Impossible d'être à la traîne ou de ne pas soutenir la comparaison une nouvelle fois avec nos voisins européens. Emmanuel Macron lance aussi cette idée de passe sanitaire maintenant parce que les débats qu'elle va provoquer seront compliqués, périlleux même. Même au sein du gouvernement, c'est pour vous dire, tout le monde n'est pas emballé. Se retrouver à être accusé d'être liberticide, encore une fois, personne n'en a envie.
Merci beaucoup Olivier Bost, à 7h40. C'est donc le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, qui sera l'invité d'Alba Ventura. On sait qu'à l'échelle de l'Europe, la question de la vaccination en ce moment est elle aussi extrêmement sensible. Dans un instant, suite et fin de notre semaine agricole, notre brigade va nous éclairer sur ce qu'on appelle désormais le locavorisme, autrement dit, la consommation de produits venant d'un rayon de moins de 80 km de chez soi. Les Français jouent de plus en plus le jeu du circuit court. Restez avec nous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h18, on termine notre semaine agricole avec ce matin le succès des circuits courts et de ce qu'on appelle désormais le manger local. Les deux mots, on les comprend très clairement. La crise sanitaire a eu un impact sur notre façon de consommer. Elle a accéléré cette tendance. Les Français veulent de plus en plus acheter directement auprès des producteurs. Quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène? La brigade RTL a enquêté. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
D'abord, circuit court, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement?
Eh bien, c'est quand vous achetez vos tomates ou votre poulet, soit directement au producteur, soit il y a au maximum un intermédiaire et le lieu de production se situe à moins de 80 km de l'endroit où vous êtes. C'est la définition légale du ministère de l'Agriculture.
Ça représente quelle partie aujourd'hui de ce que nous mangeons?
Alors déjà, il y a un peu plus de 20% des agriculteurs qui vendent en direct. Souvent, ils refusent le système des grandes surfaces. Ils préfèrent vendre à la ferme ou dans des magasins de producteurs. Et les circuits courts représentent aujourd'hui 10% de la consommation des produits alimentaires en France. Mais ça pourrait grimper à 25% dans les 4 ans, estiment les chambres d'agriculture.
Alors, des chambres d'agriculture qui viennent d'ailleurs de lancer avec le gouvernement une plateforme sur Internet.
Vous allez sur le site frais et local, vous indiquez l'endroit où vous habitez, les produits que vous cherchez, miel, légumes, fromage, et vous obtenez toutes les fermes et points de vente directs autour de vous. Il y a à peu près 12 000 adresses recensées pour l'instant.
Voilà, frais et local, on rappelle le titre. La crise a-t-elle vraiment amplifié le phénomène?
Souvenez-vous Yves, lors du premier confinement, il y a un an, vous n'aviez pas forcément envie d'aller faire la queue dans une grande surface. Donc les gens ont commandé directement aux producteurs et parfois même se déplaçaient chez eux. Les drives fermiers ont vu leur vente bondir de 400%. Alors les avantages, souvent une meilleure qualité, dialoguer avec le producteur, c'est important. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, les prix sont intéressants. Et puis c'est plus écologique, ça fait moins de transport en camion. Enfin, dernier argument important, ça préserve les emplois dans votre région.
La vente par circuit court va aussi s'accélérer grâce à la loi.
Voilà, la loi alimentation qui va imposer à partir de janvier prochain 50% de produits bio, labels ou locaux dans les cantines, donc en circuit court.
Au bout du compte, Virginie, la crise Covid est-elle vraiment en train de changer notre façon de consommer?
Bien, avant la crise, les petits commerces n'en pouvaient plus de la concurrence des grandes surfaces et d'Internet. Amazon leur faisait peur. Avec la crise, ils se sont organisés. Avec le click and collect, ils se sont mis eux aussi sur Internet. Le primeur du quartier, le boucher, qui même parfois livre à domicile. Alors il faudra voir dans les mois qui viennent si tout cela se consolide. Mais dans notre façon d'acheter, il y aura peut-être un avant et un après Covid.
Et dans un instant, nous allons discuter avec le président de La Ruche qui dit oui.
Yves Calvi sur RTL.
Parmi les acteurs historiques des circuits courts en France sur Internet, il y a donc la fameuse Ruche qui dit oui, un site qui met en rapport producteurs et consommateurs depuis maintenant près de 10 ans. 200 000 utilisateurs achètent des produits dans 1000 ruches, autrement dit des points de vente éphémères. Nous sommes ce matin avec son président Grégoire de Tilly. Bonjour Grégoire de Tilly.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous confirmez l'impact de la crise du Covid sur les ventes et sur l'intérêt des Français pour ces circuits courts?
Oui, l'impact du Covid a été énorme et jamais les circuits courts ont été autant plébiscités. Je dirais qu'il y a trois raisons. La première, c'est que les consommateurs recherchaient pendant cette crise un vrai lien de confiance et de proximité avec les circuits courts et en particulier à La Ruche qui dit oui. C'est du direct producteur. Vous achetez en direct au producteur. Vous savez à qui vous achetez et ça, oui, c'est extrêmement important. La deuxième raison, c'est que les consommateurs ont cherché à ce moment-là des produits qui sont bons pour l'environnement. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et des produits en circuit court, c'est naturellement des produits de saison. et les produits de saison sont des produits qui sont cultivés localement. Nous, à la ruche qui dit oui, la distance moyenne entre le producteur et le lieu de distribution, qui est une ruche, est de moins de 60 km. Et puis après, le troisième point qui est extrêmement important, c'est la rémunération des producteurs. Et dans un système comme la ruche qui dit oui, il y a 80% de la rémunération qui va au producteur, avec un producteur qui fixe lui-même son prix. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès des circuits courts pendant le confinement.
Alors justement, comment évoluent les ventes? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Et puis surtout, quels sont les produits qui se vendent le plus en ce moment sur votre site?
Alors, les ventes, on a eu un impact assez important parce qu'on a un nombre de nouveaux clients qui a doublé. On a eu plus de 60 000 nouveaux clients. Sachant que nous, La Ruche, on existe depuis 10 ans. Donc, on travaille avec 10 000 producteurs. Vous l'avez dit, on a 750 marchés éphémères sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, j'allais dire sur les produits les plus vendus. Les produits les plus vendus pendant ces périodes de crise, c'est les produits qui sont les produits de saison, et c'est ça qui est aussi important à La Ruche, c'est-à-dire que en commandant en circuit court, si ce sont des produits de saison, ça veut dire que ce sont des produits aussi qui ont été cueillis le matin même et ce sont des produits qui sont donc très sains, de qualité, avec beaucoup d'éléments naturels contenus dans ces produits-là.
Et d'une extrême fraîcheur. Vous vous rémunérez comment? Et est-ce que c'est aussi gagnant-gagnant pour les producteurs? Est-ce que, pour dire les choses simplement, ils sont mieux payés que s'ils passent par une grande surface?
Alors nous, on est extrêmement transparent sur le mode de rémunération. On est une plate, La Ruche qui dit oui, est une plateforme de mise en relation entre les producteurs et les consommateurs. Nous, on est juste l'intermédiaire au centre qui fait cette mise en relation. Nous et le responsable du marché éphémère, nous touchons une commission de 20%. 80% du prix va pour le producteur. Et autre point qui est extrêmement important, c'est que c'est le producteur qui fixe son prix. Et donc ça lui garantit une juste rémunération de son métier.
Merci beaucoup Grégoire de Tilly. Bonne journée à vous avant de terminer cette semaine agricole. Je voulais remercier bien entendu Virginie Garin, la chef de notre service qualité de la vie, pour ce programme que vous nous avez proposé pendant toute la semaine. Tout cela est à retrouver sur le site RTL.fr et sur notre application. Je vous rappelle que le salon de l'agriculture n'avait pas lieu et c'est pour ça qu'RTL a voulu absolument être à côté de nos agriculteurs pendant cette semaine. Pour être tout à fait complet, sachez enfin que le nouvel épisode du podcast d'actualité Ensuite de Catherine Mangin et Christelle Rebière vient d'être mis en ligne sur Internet. Dans un instant, c'est le jour du poisson.
RTL.
On se prend la main. Et on se prend la main.
Toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
7h25, il est grand temps de découvrir notre pépite musicale du vendredi matin.
Alors, on va écouter une des plus belles chansons au monde, Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding. Au cours de l'été 67, entre deux concerts, le chanteur américain logeait sur un bateau-hôtel sur un quai de la baie de San Francisco. Il regardait les bateaux arriver tout en pensant à son parcours. Lui, le petit gars de Géorgie qui désormais voyageait dans toute l'Amérique pour chanter. Voilà comment est né ce morceau, qui aura un succès bien sûr planétaire et qui touchera tout particulièrement un adolescent anglais. Cet ado, alors âgé de 16 ans, passait ses journées assis sur un quai dans le port de son village. Il regardait les bateaux partir et se disait qu'il devrait faire pareil pour réaliser son rêve de devenir chanteur. Autant dire que la chanson d'Otis Redding l'a envoûté. Cet ado est devenu une star du rock. Il s'appelle Sting et l'année dernière, il a enregistré sa version de la chanson Sitting on the Dock of the Bay. C'est notre pépite du jour. On s'assoit sur le quai face à la baie et on écoute Sting chanter du Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, I'm headed for the Frisco Bay, 'cause I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
délicieux moment de flânerie offert par Sting. On trouve sa version en streaming dans un disque sorti l'an dernier au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'interprète d'origine Otis Redding n'a jamais su que cette chanson a fait le tour du monde et qu'elle est devenue la plus connue de son répertoire. Il est mort dans un accident d'avion à l'âge de 26 ans en décembre 67 et le titre est sorti un mois après. C'était d'ailleurs la première fois qu'un artiste était numéro un des ventes après sa mort. Et Sitting on the Dock of the Bay se termine en sifflant, vous savez pourquoi? C'est parce que Otis Redding n'avait pas eu le temps d'en écrire le dernier couplet. Et là c'est Sting qui siffle. Aussi.
On apprend des choses tous les jours, en plus de découvrir ces chansons magnifiques. Merci beaucoup Anthony Merci. Martin. On se retrouve lundi pour une nouvelle série de pépites, et puis bien sûr, à tout moment, en podcast sur la nouvelle appli RTL. Les grosses têtes nous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h, et je suis sûr que vous reprendrez bien quelques fake news avant le week-end.
Le petit Jean-François Delfrécy a disparu des médias depuis 3 semaines. Si vous le voyez sortir après 18h ou en week-end à Dunkerque ou Nice, n'hésitez pas à alerter sa famille.
Christine, bravo.
Littérature. Le prix du livre de l'année a été remis à... Je n'ai pas été harcelé par un acteur, pas violé par mes parents, je ne suis pas victime de racisme, je suis soignant mais ça va, je suis pas noir, pas homosexuel et je n'ai même pas d'enfant handicapé. Publié aux éditions de La Découverte par un auteur qui préfère garder l'anonymat.
Valérie Mérès.
D'après Le Canard enchaîné, des journalistes de BFM TV et des médecins de l'hôpital Pompidou ont été surpris dans un restaurant clandestin à Paris le 24 février dernier. Si on le dit, c'est pas qu'on veut dénoncer, c'est qu'on veut juste l'adresse.
Avec Laurent Ruquier, dès 15h30 aujourd'hui, Isabelle Mergaud, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal, Christophe Beaugrand et Paul Elkarat. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Yves.
La météo de ce week-end.
Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est encore nuageux dans les régions de l'Est, hein, principalement de l'Alsace à la région Rhône-Alpes, avec quelques pluies. Mais enfin, je vois les images radar, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être quelques flocons sur le Jura ou encore les Alpes du Nord. Quelques nuages également du côté des Pyrénées, mais dans toutes les autres régions, petit à petit, ça devrait s'éclaircir. Et notamment au nord de la Loire, où on pourra même parler d'un temps très ensoleillé cet après-midi. Du soleil également autour du golfe du Lion. Puis ailleurs, bon, on sera moitié nuage, moitié soleil. Le tout avec des températures en nette baisse. Alors, il n'y a pas de gelée ce matin en plaine, mais cet après-midi, on repasse sous les 10 degrés dans la moitié nord, 5 à 8 degrés en règle générale, et encore 12 à 17 degrés quand même dans la moitié sud.
Merci Louis Baudin, RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 5 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce week-end, plus que jamais, on compte sur vous. Les Restos du Cœur lancent leur grande collecte nationale dans les supermarchés dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Avec la crise sanitaire et économique, le nombre de bénéficiaires a bondi de 15%. Alors la solidarité prend une dimension essentielle. C'est le message du fils de Coluche, Romain Colucci.
Le plus difficile, je vous dirais, c'est la succession des hivers. On est arrivé en mars 2020, le Covid a commencé, ça a été comme un très long hiver. Ensuite, il y a eu l'hiver 2020-2021. Et là, on a l'impression d'entamer le quatrième hiver, quoi. On ne voit plus de répit, on ne voit plus de période d'été où on peut souffler un petit peu. C'est ça qui est fatigant. En allant faire vos courses, si vous achetez un produit et que vous l'offrez aux bénévoles des Restos du Cœur, c'est un petit produit, plus un petit produit, plus un petit produit. Au bout du compte, ça fait des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes. 7400 tonnes l'année dernière. On compte sur vous.
Romain Colucci au micro RTL de Nerissa Emani.
Face au Covid, le gouvernement a renoncé au tour de vis bien serré. On est plutôt dans le fignolage.
3 nouveaux départements sont placés en surveillance renforcée, l'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes. Cela fait donc 23 en tout, mais seul le Pas-de-Calais est soumis à un confinement pour les 4 week-ends à venir, alors que la région parisienne ou Marseille y échappe avec des taux d'incidence pourtant similaires. Dans le même temps, le gouvernement promet un coup d'accélérateur sur la vaccination. Dans ces 23 départements prioritaires, 135 000 nouvelles doses vont être distribué, Sophie Orange.
Oui, 11 000 à Paris, par exemple, 12 000 à Nice. Dans la capitale, 1000 nouveaux rendez-vous seront accessibles en appelant le 3975 à partir de 9h. Les personnes sur liste d'attente vont être contactées et de nouveaux créneaux vont s'ouvrir au fur et à mesure sur les plateformes de rendez-vous. tout le monde sur le pont, exhorte Jean Castex. Des médecins, des infirmiers, des sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort. Habituellement fermés le week-end, la quasi-totalité des centres de vaccination devraient rester ouverts dans les 23 départements sous surveillance. Pour atteindre l'objectif de 10 millions de personnes protégées mi-avril, il faudrait vacciner 160 000 personnes par jour. On tourne plutôt autour de 100 000, 110 000, 120 000 les bons jours depuis la mi-février. La France va recevoir en mars et avril 3 fois plus de doses qu'en janvier et février. Les centres de vaccination vont enfin pouvoir tourner à plein régime.
Merci Sophie Orange. Le gouvernement lance également un appel au personnel soignant. Actuellement, seuls 30% des hospitaliers et 40% des soignants des EHPAD se sont fait vacciner. Ils sont vivement incités à le faire sous peine de voir la vaccination devenir obligatoire. Dans les départements rouges, les lieux très fréquentés vont être interdits d'accès. On pense notamment au Quai de Seine, envahi par les Parisiens le week-end dernier. Et puis, les commerces de plus de 10 000 mètres carrés vont fermer, hors commerce alimentaire. Alors concrètement, ce sont les grandes surfaces de bricolage ou d'électroménager qui vont devoir baisser le rideau à leur tour. Consternation de Johan Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce.
Ce qui est extrêmement dur, stressant, incompris par les commerçants, c'est que chaque semaine, on resserre davantage l'étau des mesures restrictives d'activité. Et chaque semaine, on ferme davantage notre commerce. Et on ne peut pas être fermé ad vitam aeternam. Il faut, pour les rassurer, pouvoir dire quelles aides ces entreprises vont toucher, être très clair sur ce point-là et leur donner très rapidement des perspectives pour la réouverture.
Propos recueillis par Armelle Lévy. Malgré tout, le gouvernement réfléchit à un pass sanitaire qui permettrait de rouvrir les restaurants, les salles de sport et les lieux culturels. Après un an de fermeture quasi complète, le monde du spectacle est au bout du rouleau. Il manifestait hier à Paris. Quelques dizaines d'intermittents ont même passé la nuit à l'intérieur du théâtre de l'Odéon. Xavier Mathieu est comédien. Il a travaillé 4 jours seulement l'année dernière.
On a l'impression avec Rosine Bachot d'avoir quelqu'un qui ne nous défend pas en fait. Comment on peut ouvrir des métros avec des gens avec des masques, machin, et pas ouvrir une salle de cinéma avec des gens qui vont être un siège sur deux. On peut aller à l'usine, j'étais ouvrier d'usine pendant 30 ans avant d'être comédien. Nous aussi on veut travailler. Pourquoi l'un et pas l'autre? Tout est totalement incohérent.
Xavier Mathieu au micro RTL de Juliette G. Xavier Mathieu qui était auparavant le délégué CGT de l'usine continentale de Clairoy. Il est donc devenu comédien.
Des incidents hier soir dans le quartier de la Duchère à Lyon.
Des affrontements entre les jeunes et la police ont éclaté en début de soirée. La veille, un adolescent de 13 ans avait été grièvement blessé dans un accident de scooter. Selon les jeunes, il était poursuivi par une voiture de police banalisée, ce que la préfecture dément formellement. Le frère de la victime, Hamza, lance un appel au calme.
Je vais faire en sorte que justice soit faite. Aujourd'hui, la police, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à mon petit frère. On va faire les choses dans l'ordre, on va faire les choses carrées et on va essayer de, cette fois-ci, montrer que la police peut avoir tort. Donc j'espère juste que la police va faire son travail, que le juge va faire son travail et je demande juste aux jeunes d'arrêter de tout casser, c'est tout.
Propos recueillis par Frédéric Perruche. Dans l'affaire Elsa Pilarski, son compagnon Christophe Hellul a été mis en examen hier pour homicide involontaire. Il a toujours affirmé que son chien Curtis n'était pour rien dans la mort de la jeune femme enceinte. C'était fin 2019 dans l'Aisne. Mais la justice estime qu'il n'a pas respecté ses obligations dans l'éducation du pitbull qui a été introduit illégalement en France. Le pape entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Irak, une première historique. Il tient ainsi la promesse faite par Jean-Paul II qui avait dû renoncer en 99 face à Saddam Hussein. François va bien sûr rencontrer la minorité chrétienne, mais il doit aussi s'entretenir avec l'ayatollah Sistani, la plus haute autorité religieuse chiite. Plus de peur que de mal en Nouvelle-Calédonie. Une alerte au tsunami a été déclenchée cette nuit après un séisme de magnitude 8,1 près des îles Kermadec, des îles néo-zélandaises. Des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières ont été évacués, mais finalement la vague n'a pas déferlé.
On termine en musique.
Avec la sortie ce vendredi d'une nouvelle compilation de Juliette Gréco, oui, qui nous a quittés il y a presque 6 mois. Sortie 3 jours avant la journée des droits des femmes, et ce n'est pas un hasard, car cet album s'appelle Liberté, Égalité, Féminité. C'est la petite fille de Juliette Gréco, Julie Amour Rossini, qui a sélectionné les 13 chansons. Elle s'est confiée à Stephen Bellery sur les derniers mois de sa grand-mère.
Elle a vécu des moments très difficiles. Elle a perdu d'abord sa santé et son travail en même temps, sa fille, puis son mari. Effectivement, ça a dû être très dur. Et puis, elle a perdu la capacité de se mouvoir à sa guise. Par contre, elle n'avait pas perdu ses capacités cognitives. Hein. Donc, franchement, quelle grande dame. Elle ne s'est jamais plainte, elle a toujours été adorable, elle était heureuse de voir du monde, elle nous a encore fait beaucoup rire jusqu'à la fin et elle était vive.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Rendez-vous à 9h pour l'intégralité de cet entretien et retrouver les chansons de Juliette Gréco. Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Absolument, rencontre ce matin avec Glass Marcano, gamine sans le sou du Venezuela. Aujourd'hui, elle est chef d'orchestre en France.
A tout à l'heure, le rendez-vous est pris. Il est 7h38, bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Angleterre-France en rugby, c'est samedi prochain, mais le match économique a déjà commencé et il est sans doute plié d'ailleurs.
En matière de vaccination, messieurs les Anglais ont tiré les premiers et ça va aider leur croissance. Pendant ce temps-là, nous on patiente, on regarde de l'autre côté de la Manche. Enfin, j'exagère en réalité puisque le Pas-de-Calais est confiné depuis hier, donc on ne regarde même pas.
A tout de suite pour l'Angléco.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, l'Angléco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Dans la bataille contre le virus, le match France-Angleterre s'est complètement inversé.
Oui, souvenez-vous, le grand bazar anglais de l'année dernière, avec une épidémie qui submergeait les Britanniques et leur système de santé, un nombre de morts record. Et puis tout cela après les hésitations de Boris Johnson, le Premier ministre, et son refus de confiner. À l'époque, c'était au printemps, la France déconfinait et elle envisageait le retour à une vie normale. Et voilà que tout s'est inversé. Hier, le Premier ministre Castex annonçait encore de nouvelles restrictions d'activité chez nous, en particulier dans le Pas-de-Calais, alors que les Britanniques rouvrent les théâtres et les stades en avril et en mai et que la date du retour intégral à la normale, chez eux, a été fixée à la mi-juin.
Et c'est bien sûr le vaccin qui fait la différence.
Oui, bien sûr, la préparation de la campagne vaccinale et son exécution ont été remarquables. Au Royaume-Uni, plus de 20 millions de personnes désormais protégées là-bas, 3,5 millions chez nous, alors que la population est de taille comparable.
Qu'est-ce qui explique cet écart incroyable, justement ?
Le risque pris et l'anticipation prise par les autorités britanniques. Par exemple, en finançant des projets français de vaccins, celui de Valneva, cette start-up nantaise, en précommandant des millions de doses, alors qu'on ne savait pas encore si le vaccin allait être efficace et que l'Europe, pendant ce temps-là, pinaillait sur les prix, sur la responsabilité en cas d'effet secondaire, en autorisant au plus tôt les produits, alors que l'autorité des médicaments de Bruxelles, entre les faits, troupillait. L'Allemagne s'en est même énervée, sans parler de la logistique. Les continentaux, et la France en particulier, n'ont pas mesuré l'importance critique de la vitesse d'exécution. Toute cette affaire est une gigantesque publicité en faveur du Brexit. Au point que, la semaine dernière, Bild, le grand journal populaire allemand, titrait « Chers Anglais, nous vous envions ». Le lendemain, le Sun, l'équivalent britannique de Bild, répondait en une « Nous ne vous envions pas ». Avec une photo de Merkel consternée face à un Johnson hilar, et hirsute, oui, comme d'habitude.
Est-ce que ça veut dire, parce que c'est très important aussi, que l'économie britannique va repartir plus vite pour le coup ?
Elle part d'un peu plus bas que nous. C'est net. En 2020, la récession a été de moins 10% là-bas contre moins 8% chez nous. C'est la facture du désordre qu'on évoquait à l'instant. Mais il est probable que l'écart va s'inverser là aussi, à compter de l'été. Les prévisions du gouvernement de Londres sont assez prudentes. 4% pour 2021, alors que la Banque de France prévoit 5% chez nous cette même année. Ce qui est frappant, c'est que le jeune ministre des Finances, Rishi Sunak, vient d'annoncer des hausses d'impôts significatives. Gel du barème pour l'impôt sur le revenu et hausse de la taxation des bénéfices des entreprises. Ah oui. Bon, en soi, il n'y a pas de quoi se réjouir d'une hausse des prélèvements, mais c'est quand même le signe qu'on envisage le retour à une situation économique presque normale.
Mais dites-moi, pourquoi augmenter les impôts aujourd'hui, et surtout dans un pays aussi libéral ?
Pour commencer à rembourser les centaines de milliards d'euros que la crise a coûté. C'est à peu près la même facture que chez nous. Il faut dire que, contrairement à Emmanuel Macron, Boris Johnson a devant lui une longue période de stabilité. Pas d'élection avant 2024 et une confortable majorité. Il peut donc profiter du succès politique de sa campagne de vaccination pour sortir une autre seringue douloureuse, celle des impôts.
Merci beaucoup François Langlais. Avant de vous souhaiter un excellent week-end, vous nous dites un mot du nouveau numéro de l'Angléco, c'est mieux dans ce sens-là, hors série, avec Catherine Mongin.
Eh bien, il s'agit...
Coronavirus, les limites du télétravail.
Absolument.
Vous êtes d'accord ?
De pointer les transformations dans le monde du travail, des habitudes, mais aussi des réflexes psychologiques qui sont les nôtres dans ce nouveau contexte.
Catherine fait oui avec la tête, donc je suis rassuré. À retrouver gratuitement sur RTL.fr et sur notre application mobile. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin ?
Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des questions européennes, parce que les pays de l'Union européenne ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde en matière de stratégie vaccinale.
A tout de suite avec votre invité.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Et merci d'être ce matin sur RTL. Alors la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne ont acheté ou vont le faire des vaccins russes et chinois, donc en dehors du dispositif européen. L'Autriche et le Danemark concluent un accord avec Israël pour la recherche et le développement des vaccins futurs. Le Danemark compte d'ailleurs aussi acheter à Israël des vaccins qu'il a en stock. Que se passe-t-il ? Chacun fait ce qui lui plaît ?
Écoutez, il ne faut pas justement sortir de ce cadre européen. Je pense en particulier aux pays que vous avez cités, parce que je rappelle d'abord pour eux qu'ils bénéficient très largement de cette solidarité européenne. Je le dis de manière factuelle, ce sont souvent des pays à une population relativement limitée, des petits marchés, si je puis le dire. S'ils négociaient eux-mêmes l'ensemble de l'achat des vaccins, je pense qu'ils seraient dans une situation extrêmement difficile. La solidarité européenne nous bénéficie. J'insiste, oui. Leur bénéficie. Et donc, il ne faut pas casser ce cadre. On est dans une période.
Mais eux disent on en a marre d'attendre et ils veulent agir directement.
Absolument. Alors, je le vois. Et
Visiblement, la stratégie européenne, le dispositif européen est trop lent.
Parce que, disons les choses, on est dans une période difficile. Dans une période difficile, vous savez, la solidarité, c'est toujours plus difficile en période de rareté et en période de difficulté. Je crois qu'il faut tenir bon et d'abord améliorer le cadre européen. Accélérer. Le problème qu'on rencontre tous, c'est d'abord un problème de livraison, de production. Donc il faut accélérer les cadences de nos campagnes de vaccination nationale, c'est ce qu'on essaye tous de faire, y compris en France, et de livraison, production aux Européens. Je le dis très clairement, nous l'avons dit à ces pays, nous serons au rendez-vous de la solidarité. Nous l'avons été pour la République tchèque et la Slovaquie qui sont dans une situation sanitaire, c'est vrai, très difficile. Donc je comprends dans les situations très difficiles qu'un peu par désespoir et par urgence, on cherche des solutions. Mais nous trouverons des solutions dans le cadre européen. Nous avons livré, tous européens, des doses supplémentaires à la Slovaquie et à la République tchèque, 100 000 doses par pays sur les nouvelles livraisons, en plus de ce à quoi ils avaient droit jusqu'à présent pour tenir compte de leur situation sanitaire. S'ils allaient chercher le vaccin chinois et ou russe, je crois que ce serait grave. Alors, ça pose un problème de solidarité et ça pose aussi un problème sanitaire. Parce que le vaccin russe, il n'est pas encore autorisé en Europe. Une demande a été faite, mais il n'est pas encore autorisé en Europe. Le vaccin chinois, il n'a même pas fait l'objet d'une demande. Donc comment vous voulez expliquer à des
Européens ? Alors, ce serait grave, ça veut dire quoi ?
Écoutez, pour l'instant, on a une discussion politique. Moi, je ne veux pas être dans la menace ou dans la tension, parce que ce ne serait pas rendre service à cette solidarité européenne. Si cela continuait, on ne pourrait pas avoir à la fois le bénéfice du cadre européen, qui est massif. Je rappelle que c'est quand même ce cadre européen qui approvisionne tous les pays, y compris les pays dont on parle.
Oui.
Et on ne peut pas avoir ce cadre européen et, en plus, aller chercher des solutions nationales dans le chacun pour soi.
Oui, mais ils ont un peu été influencés par l'Allemagne, permettez-moi, mais en janvier, l'Allemagne avait tenté de mener des négociations parallèles avec Pfizer, de son côté.
Il y a eu des tentations.
Toute seule.
Vous avez raison, il y a eu des tentations. Il y en aura peut-être encore, mais l'Allemagne, j'y insiste, a tenu bon sur le cadre européen et ça doit quand même nous faire réfléchir. L'Allemagne est le plus grand pays de l'Union européenne par sa population, par son économie. Si même l'Allemagne a fait le choix, et la chancelière Merkel a été très claire sur ce sujet, elle a envie de protéger les Allemands, elle n'est pas irresponsable. Elle a fait le choix du cadre européen parce qu'elle-même a dit peut-être que sur un ou deux contrats, si on avait négocié, nous Allemands, nous aurions des résultats plus importants, plus rapides. Mais sur l'ensemble des contrats, avec tous les laboratoires, et sur l'ensemble de la période, la vaccination, ce n'est pas 2 mois, c'est 6 à 9 mois au moins. Eh bien, sur toute cette période, nous avons intérêt à rester groupés, à acheter ensemble et à bénéficier de ce cadre commun. Je sais que c'est difficile aujourd'hui.
C'est compliqué de poser les bases d'une Europe de la santé, en tout cas.
Bien sûr, c'est difficile, mais souvenez-vous, il y a un an, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'Europe de la santé. Au moment de la difficulté à s'approvisionner en masques, on n'avait même pas de production européenne. Là, on a réussi en quelques semaines à construire un cadre européen. Moi, je suis très favorable à ce cadre. Je pense qu'il nous protège, pas par idéologie, parce que je pense qu'il nous protège. On doit l'améliorer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, disons-le, en Europe, il y a eu des lenteurs sur la production. On a peut-être investi trop tard dans les vaccins, mais on rattrape.
Alors,
et ça va s'améliorer aussi beaucoup en avril.
Vous dites attention à ces pays-là, hein, République tchèque, Slovaquie, Pologne et également Hongrie. Oui. Qu'est-ce que vous dites au Danemark et à l'Autriche donc, qui concluent un accord avec Israël pour des développements futurs de vaccins ?
La même chose, parce que ces pays aussi bénéficient largement du cadre européen. Nous avons eu des échanges, j'ai parlé hier soir encore à mon homologue danois, qui s'est voulu rassurant en disant c'est un travail sur de la production pour de futurs vaccins.
Ils disent surtout qu'ils ne veulent pas dépendre de l'Union européenne pour la production.
Ils disent
future.
Aussi, et je remarque que le discours a changé face aux critiques, y compris qu'ils ont subies dans leur pays, ces gouvernants. Ils ont dit aussi, nous soutenons le cadre européen, il n'est pas question de le remettre en cause, etc. Parce qu'ils voient bien que c'est leur intérêt de préserver ce cadre européen. Ils ont été très clairs là-dessus, le chancelier autrichien, la première ministre du Danemark. Ils ont discuté hier avec Israël, manifestement.
Pas que discuté, ils ont conclu un accord.
Oui, enfin, très flou, pour être honnête, qui prévoit de la production de vaccins plus tard, on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, Israël, d'ailleurs, ne produit pas du vaccin. Israël a été, je le reconnais, très efficace sur sa campagne de vaccination, très rapide, avec des conditions que sans doute on n'aurait pas acceptées en Europe, notamment sur le transfert de données médicales. Mais ce n'est pas un pays dans lequel aujourd'hui on produit du vaccin qui va nous apporter des solutions. Donc il ne faut pas non plus faire croire à des mirages aux Européens.
En tout cas, on voit bien qu'il y a un problème grave de pénurie parce que pour la première fois, Rome a bloqué des doses de vaccins AstraZeneca qui étaient destinées à l'Australie. Plus de 250 000 doses. Donc, elles ne partent pas là-bas, elles restent chez nous en Europe.
Oui, alors d'abord, ça montre qu'en Européen, on est capable de ne pas être naïf et de défendre nos intérêts. Ce mécanisme que vous évoquez, c'est un mécanisme de contrôle des exportations que nous avons défendu, nous, Français, que l'Europe a mis en place. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ça veut dire que chaque exportation de vaccins produit en Europe par tel ou tel laboratoire vers l'extérieur de l'Europe, doit être soumis à une autorisation du gouvernement et de la Commission européenne. Quand on estime que cette livraison peut nous pénaliser, et là, c'était le cas selon le gouvernement italien, parce que c'est beaucoup de doses, vers un pays qui n'a pas un besoin urgent de ces doses par rapport à l'Europe, nous bloquons et nous les gardons. C'est ce qu'a fait l'Italie. Elle a eu l'autorisation européenne, c'est une décision collective, et je crois qu'en l'occurrence, elle a bien fait.
Hier, le Premier ministre Jean Castex en a appelé à la mobilisation générale pour vacciner aussi vite que possible, sauf que les vaccins, on le voit, ne tombent pas du ciel. Pourquoi on se retrouve avec des doses d'AstraZeneca dans les frigos?
Il y a eu sans doute une défiance sur le vaccin AstraZeneca, parce que, disons-le aussi, comme ça s'est passé, c'est un vaccin sur lequel il y a eu plus d'incertitudes. Et ce n'est pas le gouvernement.
Mais on ne va pas pouvoir corriger l'image de ce vaccin.
Parce qu'il faut le dire d'abord très clairement, moi je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques disent maintenant, notre haute autorité de santé dit maintenant très clairement, ce vaccin est efficace. Ce n'est pas une décision politique, ça a été une recommandation scientifique. Nous avons toujours suivi ces recommandations. Quand la haute autorité de santé a dit, je n'ai pas encore assez d'éléments pour autoriser en France la vaccination des plus de 65 ans, c'était une position très prudente, on l'a respectée, on l'a suivie, on a concentré l'AstraZeneca sur d'autres populations. Aujourd'hui, depuis quelques jours, la Haute Autorité de Santé dit « ce vaccin, on a confirmé son efficacité, on sait même qu'il est efficace sur les plus de 65 ans ». Ça a freiné de fait un peu la campagne sur ce vaccin particulier. Maintenant, il faut accélérer, d'où la mobilisation générale, parce qu'il n'est évidemment pas possible, pas acceptable, que dans une période où nous avons par ailleurs des attentes, des impatiences sur la livraison des vaccins. On est en plus des doses qui soient, comme vous dites, dans les frigos.
Emmanuel Macron a dit, tant qu'il y a encore des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens. On a combien de doses dans les frigos?
Écoutez, sur l'AstraZeneca, c'est quelques centaines de milliers de doses qui sont disponibles. Au total, c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui est disponible aujourd'hui. On a quelques centaines de milliers de doses. Il y en a qui sont en sécurité, c'est normal. C'est la deuxième injection que certaines personnes attendent. On ne va pas jouer avec ça. Et puis, il y a des doses qui sont disponibles. On peut clairement accélérer. C'est pour ça que le Premier ministre a dit on se mobilise par tout canot, en mobilisant les pompiers, le week-end, en accélérant la vaccination. Je crois que c'est la responsabilité qu'on doit aux Français. Et leur dire, et encore une fois, ce n'est pas une décision qui sort du chapeau, c'est scientifiquement fondé. Maintenant, on sait. L'AstraZeneca est efficace, on l'utilise massivement.
Vous êtes impuissant face aux soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Je parle à quelqu'un dont la mère est infirmière.
Et le père et le frère médecin. Voilà. Donc je connais bien ce sujet, je sais
mais
aussi la défiance.
Impuissant.
Non, on n'est pas impuissant, mais c'est une question de responsabilité. C'est ce qu'a dit très clairement en appelant chacun. On n'est pas dans un mécanisme de sanction ou de punition, mais le Premier ministre, le ministre de la Santé ont dit... Quand on est soignant, on a aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on prend en charge, notamment dans le service public hospitalier. Donc, chacun doit faire un effort.
Part les inciter, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus?
Il va y avoir cette incitation très forte. Je crois que ça vaut quelque chose. On ne parle pas à des personnes qui sont irresponsables. Elles ont à cœur, évidemment, toutes, je le sais, infirmières, soignants, médecins, de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, si leur propre vaccination peut aider, je crois qu'ils le feront davantage. On a levé les doutes scientifiques, c'est clair. Et puis, si on devait aller plus loin, on réfléchira, mais ce n'est pas l'esprit du moment.
Clément Beaune, il y a un sujet qui s'impose de plus en plus, celui du passeport vaccinal ou passe sanitaire qui permettrait de voyager, d'aller au resto, d'aller voir un concert. L'Europe y est très favorable. Alors, qu'est-ce qu'on attend, nous?
Eh bien, on y travaille parce que, je veux dire, deux choses pour clarifier ce débat. D'abord, c'est prématuré de dire... on va donner à chacun un petit pass ou un petit certificat qui lui permettra d'aller au théâtre ou de se déplacer en Europe. Je crois qu'on est dans une période où la vaccination, on le sait, est encore parfois difficile, monte en puissance. Donc on ne va pas dire à des gens, vous avez plus de droits avec un vaccin, alors que tout le monde n'a pas l'accès libre au vaccin aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, quand on dit, et je ne joue pas sur les mots, c'est très important d'être précis, on parlerait le moment venu, d'un pass sanitaire et pas vaccinal. Pourquoi ?
Parce que la différence.
Oui, la différence, c'est que je prends l'exemple, par exemple, des déplacements en Europe. Si on veut sécuriser ces déplacements et retrouver de la liberté de mouvement, notamment pour cet été, pour la saison touristique, on ne va pas dire aux gens, ça ne dépend que du vaccin. Pourquoi ? Parce que même si on est très bon sur la campagne vaccinale et qu'on accélère ce que l'on essaye de faire, les jeunes de 18-20 ans, ils n'auront sans doute pas cet été encore accès au vaccin. C'est la population adulte qu'on cible en premier. Est-ce qu'on va leur dire, eux qui ont une vie aujourd'hui difficile, étudiants et autres, eh bien, vous n'avez plus le droit de vous déplacer, plus le droit de faire telle ou telle activité.
Vous avez peur de brider les libertés individuelles ?
Bien sûr, c'est un sujet très important qui soulève des questions éthiques, scientifiques, qu'on doit débattre d'abord, donc ce n'est pas un sujet pour tout de suite, qu'on doit préparer, parce que je crois que ce ne serait pas responsable de dire aux Français on n'a pas travaillé, et ça ne peut pas dépendre que du vaccin comme un sésame unique. Ça doit dépendre de protection sanitaire, ça peut être le vaccin, ça peut être des tests PCR ou antigénique qui prouve que vous n'êtes pas à risque. Donc c'est une palette d'instruments sanitaires dont ce certificat pourrait faire la preuve le moment venu, mais ce n'est pas juste lié au vaccin. J'insiste sur ce point parce que c'est très important.
Le moment venu, ça pourrait être dans 4 à 6 semaines, comme l'a évoqué le Président. Il nous demande de patienter encore un peu. Gabriel Attal a parlé de retrouver une vie normale vers la mi-avril.
Il y a deux choses différentes.
C'est à ce moment-là ou c'est encore trop tôt ce moment-là ?
Je pense que c'est encore un peu tôt. Les réouvertures de lieux culturels, j'espère d'activités comme les restaurants ou les cafés progressivement, ne vont pas dépendre de ce seul outil. Cet outil servira, à mon avis, plutôt pour la fin du printemps, pour l'été, notamment pour les questions de déplacement en Europe, pour les questions touristiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit le préparer de manière transparente. C'est un sujet qui mobilise tout le monde, tous les partis politiques, les opinions. Il y a des questions qui se posent, travaillons-y.
Merci beaucoup Clément Beaune.
Merci à vous.
Pour la vaccination, nous avons intérêt à jouer groupé sur le long terme. Le cadre européen nous protège même si la mise en route a été difficile, vient nous dire le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec les règlements de compte à Buckingham Palace.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h57, on a envie de savoir ce qui se passe à Buckingham Palace. C'est à vous, Cyprien.
Ah, enfin une actualité essentielle. Ouais, d'ailleurs, ça n'a pas du tout la musique là. Non. Vu la situation, c'est plus. Voilà, là c'est mieux. Là, on est plus dans l'ambiance. Eh oui. Car hier, qu'est-ce que j'entends à 8h sur RTL ?
Rien ne va plus entre Meghan Markle et le palais de Buckingham.
Non. Règlement de compte à Buckingham Palace. Avec cette info.
The Times révèle que Meghan Markle aurait harcelé des assistants de Kensington Palace. Buckingham Palace a réagi. Le palais va examiner ces accusations, dit-il. Il ajoute qu'il ne tolère pas et ne tolérera pas le harcèlement sur le lieu de travail.
Meghan tyrannique. Meghan lâchée par Buckingham. Bon, en même temps, Harry et Meghan, maintenant qu'ils sont indépendants, sont un peu en roue libre, hein, visiblement. Après demain dimanche, on va en apprendre de belles chez Oprah Winfrey, la Michelle Drucker américaine, qui a préparé une bande-annonce aux petits oignons dans son émission avec Harry et Meghan. Écoutez. Je vais être clair, pas de sujet tabou. Vous avez dit des choses assez choquantes, dit la présentatrice. On a hâte d'écouter, on a hâte d'y être, ça va être croustillant. Autre extrait, Meghan qui accuse le palais de mensonges, voire pire.
Je ne sais pas comment ils pourraient s'attendre à ce qu'après tout ce temps, nous restions simplement silencieux. S'il y a un rôle actif que la firme joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet.
Elle les appelle la firme, carrément, comme dans le film. La firme, vous savez ?
La firme.
Votre firme est le seul et unique représentant de la mafia. La firme. Votre vie telle que vous l'avez connue, c'est terminé.
Ouais, la firme. Autant vous dire qu'il y a du rififi. Bon, après, ça fait quand même un moment qu'il se lâche complètement, Harry, qui disait déjà à la télé américaine.
And it was destroying my mental health. I was like, this is toxic.
En gros, il y avait une ambiance toxique, ils te détruisent, fallait emmener ma famille loin de tout ça. Ben, c'est bien, on sent qu'à Buckingham.
C'est pas un cliché, quoi, que de dire que le groupe vit bien.
Ah, bah oui, le groupe vit bien. Bonne ambiance. En tout cas, c'est amusant de se remémorer les propos des spécialistes. Vous savez, au moment du mariage, il y a 3 ans, séquence. Les experts royauté. Qui la sentaient bien, l'intégration de Meghan, pourtant.
Ce mariage, c'est un bonheur, c'est une surprise. On y va, à fond les ballons.
C'est comme ça que cette monarchie se nourrit, se perpétue.
Ah, bah ouais, se perpétue bien, là. Alors oui. Que d'autres disaient plutôt.
Pourquoi dit-on déjà que Kate et Meghan se détestent ? Font-elles semblant de s'apprécier ?
Je crois que la question est vite répondue. Hein. On partait sur de bonnes bases. Alors, en attendant le grand déballage dimanche, la Queen, elle a plus qu'à prier. Hein. God save the Queen. Et de toute façon, comme Dieu sauve la reine, on n'est jamais à l'abri d'un miracle.
Et à ce soir 19h15 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
Absolument.
À tout à l'heure. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'appel de Jean Castex, restez chez vous et vaccinez-vous.
Les Français invités à se déplacer le moins possible et à se faire vacciner, ce sera possible en pharmacie dès le 15 mars. La vaccination justement, qui fait grimper les prix à la pompe. On va vous expliquer pourquoi. Et puis un ancien directeur du fisc devant la justice à Toulouse.
Notre météo, Louis Baudin.
Oui, avec encore beaucoup de nuages ce matin, mais au fil des heures, le soleil va gagner du terrain quasiment partout. Alors, sauf près des Pyrénées, entre la région Rhône-Alpes et le nord-est, où il restera des nuages, voire quelques pluies, quelques flocons en montagne, il n'y en aura pas beaucoup. Ailleurs, donc, le soleil finira par s'imposer, au nord de la Loire principalement, ou encore sur les bords de la Méditerranée. Puis les températures, là, en chute libre, 5 à 8 degrés, pas plus cet après-midi dans la moitié nord, 12 à 17 dans le sud.
Merci Louis.
RTL Matin.
Jean Castex l'a donc confirmé hier soir, il n'y aura qu'un seul nouveau département confiné le week-end. Dès demain 8h, il s'agit du Pas-de-Calais, une exception qui interroge le maire LR du Touquet, Daniel Fasquelle.
Comment voulez-vous que j'explique aux commerçants de ma commune qu'ils vont devoir fermer ce week-end alors que les mêmes commerçants pourront ouvrir dans des départements qui pourtant connaissent la même situation sanitaire? C'est absurde. Donc le gouvernement, il doit être le garant de l'application juste, équitable et égale de la loi partout en France, selon peut-être que le gouvernement craint ou non les réactions des habitants. Il va imposer le confinement ou ne pas imposer le confinement. C'est une politique de gribouille. En réalité, ce qui va se passer, c'est que là où l'épidémie est déjà très présente, elle ne va faire que se répandre. Et finalement, on ira peut-être aussi vers un confinement dans ces départements par la suite. Pourquoi ne pas avoir pris une mesure simple, claire, immédiatement? C'est ce que nous voulions.
Le maire du Touquet avec Nerissa et Mani. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
C'est vrai qu'on peut s'interroger si on regarde les chiffres. Le taux d'incidence, autrement dit le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est supérieur à 400 dans le Pas-de-Calais, mais c'est la même chose en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures?
Non, en fait, car l'incidence, 411, c'est vrai, dans les deux départements, n'est pas le seul critère pour décrire la situation sanitaire. Que faut-il regarder? D'abord, l'évolution des chiffres. Ils augmentent plus vite dans le Pas-de-Calais. Mais surtout, le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, avec une tension à 146% à Arras ou Calais, par exemple, contre 110% en Seine-Saint-Denis. On est bien au-delà de la saturation. Dans le Pas-de-Calais, le nombre de personnes en réanimation a doublé en un mois, quasiment autant que pour la vague de novembre. En plus, les hôpitaux voisins du Nord, par exemple, sont eux aussi débordés. Le CHU de Dunkerque a transféré deux patients au Havre et à Rouen en début de semaine. Du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Jusque-là, les malades allaient dans les villes voisines. Il n'y a donc plus de place dans les hôpitaux. Des opérations vont devoir être déprogrammées, alors qu'en Île-de-France, les Hauts-de-Seine, par exemple, ou l'Essonne ne sont pas saturés et peuvent accueillir des malades de Seine-Saint-Denis. Autre élément qui inquiète, dans le Pas-de-Calais, le variant anglais plus contagieux représente 70% des nouveaux cas. D'où la demande de plusieurs maires, d'ailleurs, hein, Arras, Calais, qui avaient réclamé, eux, des mesures plus strictes, contrairement à celui du Touquet qu'on vient d'entendre. Des élus qui s'inquiètent également du retard de la campagne de vaccination. 10 000 doses vont donc être envoyées dès ce week-end.
Sophie Orange, au total, 23 départements sont désormais sous surveillance renforcée. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m² seront fermés dans ces territoires. Les Français sont aussi appelés à limiter fortement leurs déplacements.
La vaccination possible en pharmacie à partir du 15 mars.
C'est un nouveau coup d'accélérateur après les médecins, donc les pharmaciens comme Marlène Gérard à Prégnac en Gironde et qui dit « enfin il était temps ».
On a envie de participer le plus possible. Là, on est dans une maison de santé. On a envie que les pharmaciens soient aussi impliqués en termes de santé publique. On a vacciné pour la grippe. Ça a été un gros succès. Ça se passe bien. Moi, je vaccine de plus en plus de patients. J'ai commencé en expérimentation tout doucement à 60-70 patients par saison. Je crois que j'en fais 250. La marge de progression est quand même importante. On nous en parle tout le temps. Quand est-ce que vous allez vacciner? Moi, je crois que les patients attendent ça aussi. C'est ultra flexible. Il y a une facilité de la vaccination en officine pour les gens. C'est sûr, c'est pratique.
Propos recueillis par Philippe de Maria, sont concernés les plus de 50 ans avec facteurs de risque. Quant aux soignants qui rechignent à se faire vacciner, et c'est la majorité, ils se sont fait tirer l'oreille par le gouvernement. Olivier Véran leur envoie une lettre aujourd'hui pour les inciter très fortement à recevoir une injection. Seuls 30% des soignants en ville et à l'hôpital se sont fait pour l'instant vacciner. Et puis le rapport provisoire des experts de l'OMS, parti enquêter sur l'origine de la pandémie en Chine. Ce rapport ne sera finalement pas publié tout de suite, contrairement à ce qui avait été annoncée. Washington s'interroge sur les conditions de cette enquête très encadrée par les autorités chinoises.
RTL 8h05, le pape attendu à Bagdad pour une visite historique.
Et son avion s'est envolé de Rome il y a 20 minutes, 3 jours de déplacement en Irak sous très haute sécurité. L'Irak, l'un des berceaux du christianisme où les chrétiens ont subi les assauts du groupe État islamique. François veut encourager l'église martyre à prendre part dans la reconstruction du pays.
Notre reportage sur place à 8h20. Dans le reste de l'actualité, en France, un ancien responsable du fisc devant la justice à Toulouse.
Il fut le numéro 2 des finances publiques d'Occitanie. Il comparaît ce matin en correctionnel aux côtés de sa femme. Le couple est accusé d'avoir alerté un restaurateur ami d'un contrôle fiscal. Une prévenance qui vaut à ces deux fonctionnaires de se retrouver prévenus. Ce sont des inspecteurs qui ont levé le lièvre, Patrick Tégéraud.
Les simples inspecteurs avaient pu établir que le restaurateur faisait disparaître 8 à 10% de ses recettes en liquide grâce à un logiciel frauduleux. En fouillant téléphone et ordinateur, ils auraient trouvé des messages prévenant d'un contrôle et même expliquant comment y faire face au mieux. Ces messages venaient de l'un de leurs patrons, un très haut fonctionnaire du fisc, ainsi que son épouse. Ce restaurant était un petit peu leur cantine. Le couple y avait mangé plus de 90 fois en 2 ans. Ça crée des liens. Ce que réfute Laurent Boguet, qui est leur avocat.
De manière quasiment obsessionnelle, les enquêteurs ont voulu en faire une relation amicale qui viendrait en quelque sorte suppléer les carences de leur démonstration. Les comptes de ces deux agents ont été examinés par le détail. On s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucun enrichissement.
Mais curieusement, dans ce restaurant, le couple réglait ses notes en liquide, donc pas de traces. En tout cas, si alerte et conseil il y a eu, ils n'ont pas servi à grand-chose. Le restaurateur et ses deux associés ont comparu la semaine dernière. Le procureur a requis 3 ans de prison, 50 000 euros d'amende, car la fraude dans plusieurs restaurants est estimée à plus de 2 millions en 4 ans.
Patrick Tégéraud, des affrontements hier soir à Lyon entre jeunes et policiers à la Duchère. 12 personnes ont été interpellées en cause d'un accident de scooter. Le jeune conducteur est dans le coma. Sa famille affirme qu'il était poursuivi par une voiture banalisée qui aurait ensuite pris la fuite. La police dément. Gérald Darmanin attendu à Reims aujourd'hui suite de l'agression du photographe de l'Union de Reims samedi dernier dans le quartier de la Croix-Rouge. Le ministre de l'Intérieur va notamment rencontrer l'équipe du journal. Un suspect a été mis en examen. La victime, elle est toujours placée dans un coma artificiel.
Dans un instant, coup de massue à la pompe. La pompe à essence, bien entendu.
Bien sûr.
Voilà, à tout de suite.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Les prix à la pompe ont repris de la vigueur.
1,39€ en moyenne aujourd'hui pour le gasoil. Les prix ont retrouvé leur niveau d'avant la crise. Les explications d'Olivier Gantois, c'est le président de l'Union française des industries pétrolières. Il est avec Christophe Bourou.
La première, c'est que les producteurs de pétrole, l'OPEP et la Russie, ont décidé de baisser leur production de 7 millions de barils par jour au mois de mars pour éviter qu'il y ait des excédents sur le marché qui feraient baisser les prix. La deuxième raison, c'est que la situation sanitaire, on va dire, s'améliore, notamment grâce aux vagues de vaccination qui progressent et qui apparemment sont efficaces. Ces vagues de vaccination permettent d'éloigner le risque de reconfinement qui, lui, ferait baisser les prix. Donc ça, ça permet de maintenir la demande et donc les cours.
Et donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Reportage de Dimitri Ramelot.
Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous conduire.
Pompe numéro 3 de la station-service de ce supermarché à l'entrée de l'autoroute A31. Pas de détails pour Jean-Marc, réservoir vide. Le plein donc pour son SUV et le compteur tourne vite, très vite.
Pour le gasoil, ça a pris pas loin de 20 centimes en peu de temps. Pendant la crise, on était descendu à 1,10€, je crois, et là, 1,35€. Oui, ça commence à peser dans le budget, forcément.
Pistolet raccroché, 67€. Et derrière lui, Rosalia attend la place pour se servir en sans-plomb 95. Cette retraitée a fait le tour des 3 stations du secteur pour trouver la moins chère.
J'en ai une petite pension et puis, vous savez, la voiture, c'est pas un luxe pour moi parce que je suis handicapée. Et puis, il me faut la voiture parce que j'en ai beaucoup de soins. Et puis, l'essence, elle est trop chère.
Vous le sentez ?
J'ai le sens.
Et Rosalia d'expliquer que sa retraite de 500€ ne résistera pas bien longtemps à la hausse du prix du carburant. Seule alternative, se faire accompagner par son fils pour les soins ou le covoiturage.
Dimitri Ramelot.
8h10, direction Mars à présent.
Pas pour vous faire écouter le bruit du vent, ça c'est déjà fait. On va vous présenter dans la caméra qui permettra de repérer les échantillons actuellement prélevés sur la planète rouge et qui seront ensuite mis en orbite. Ces morceaux seront placés dans une toute petite capsule de la taille d'un ballon de football. Et là, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on va la retrouver, cette capsule? Eh bien, c'est là qu'intervient la fameuse caméra qui devra avoir un œil de lynx et elle sera, cocorico, c'est une fierté française, elle sera construite par une entreprise française. Sophie Jousselin.
Oui, déjà, cette capsule, à l'échelle du système solaire, elle est minuscule.
C'est un ballon de foot qui est posé à Moscou et qu'on détecte depuis Paris.
Et en plus, comme l'explique Vincent Dedieu, le directeur général adjoint de l'entreprise Soderne, elle est très peu lumineuse.
Elle est 400 fois moins lumineuse que ce qu'on peut voir naturellement à l'œil nu. Et il faut aller détecter cette capsule dans un environnement qui, lui, est assez lumineux, puisqu'il y a Mars à côté, et que Mars, c'est très lumineux.
Pas simple, effectivement.
Essayez d'aller voir des étoiles à côté d'un lampadaire qui est allumé, vous verrez que c'est très compliqué.
Donc, pour ne pas être gêné par cette lumière martienne, il a fallu imaginer un long pare-soleil d'une quarantaine de centimètres.
C'est un pare-Mars, en fait, c'est pas un pare-soleil.
Oups, pardon.
Alors, il va être noir pour absorber la lumière parasite qui ne viendrait pas de l'endroit qu'on veut regarder. Donc c'est un noir très profond, c'est de la technologie, je ne pourrais pas vous donner les détails parce qu'on garde aussi ça pour nous.
Le secret est bien gardé par l'équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur le projet. La caméra, elle, doit être livrée en 2024.
Sophie Jousselin.
Nous terminons avec l'histoire du jour.
Juste à temps. En Inde, un jeune homme déclaré mort après un accident de moto s'est réveillé sur la table d'autopsie où les médecins, scalpel à la main, s'apprêtaient à entamer l'examen post-mortem. Le mort, qui ne l'était pas, s'est mis à bouger et il se remet en ce moment dans une chambre d'hôpital où son état s'améliore.
Can you dig it?
Ça, c'était pour retourner un peu de Michael Jackson, c'est ça?
Oui. Ah là là. Enfin, c'est Vincent Price, pour le coup.
Ça, c'est Vincent Price?
Oui, c'est sûr.
Ah, je vous prie de m'excuser. J'étais à côté de la plaque.
Non, mais bon. C'est bien une chanson de Michael Jackson.
Initialement, oui. Ah, voilà. Mais c'est la voix de Vincent Price.
Exactement.
Merci.
Nous sommes complets.
Vous savez, il est rigoureux, carte de presse, etc. On plaisante pas. C'était le journal de Jérôme Flore.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Eh bien justement, restons rigoureux et intéressons-nous aux fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la Cour de justice de la République a relaxé Édouard Balladur et condamné à 2 ans avec sursis François Léotard dans l'affaire Karachi. Peut-on dire que cette institution est clémente avec nos responsables politiques?
Alors c'est une tradition, ça, à chaque décision de la Cour de justice de la République, on entend ou on lit les mêmes réactions. Hier, concernant le délibéré de l'affaire Karachi pour Édouard Balladur et François Léotard, ça n'a pas raté. Justice d'entre soi, à quand une vraie justice pour ceux qui nous gouvernent? Ou plus étonnant, hein, ce message sur Twitter. Tiens, Balladur, il est là, lui. Comme un oncle inattendu sur une vieille photo familiale. Alors, la Cour de la justice de la République, une nouvelle fois critiquée pour sa mansuétude, est difficile de dire le contraire. Hein. Créée en 1993, la Cour de justice de la République, compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, a rendu en tout 7 jugements. Jamais de la prison ferme. De l'affaire du sang contaminé à celle de l'affaire Karachi évoquant un financement illégal de campagne électorale, les plus grosses peines ont été en 2004 pour Michel Gilibert, ancien secrétaire d'État aux handicapés, 3 ans avec sursis, Charles Pasqua en 2010, 1 an avec sursis et François Léotard hier, 2 ans avec sursis.
Alors, la légitimité de la Cour de justice de la République est contestée depuis sa création.
Exactement, en fait. Mise en place en 93, elle se compose de 12 parlementaires, 6 élus par l'Assemblée nationale, 6 élus par le Sénat et de 3 magistrats du siège à la Cour de cassation. Un de ces 3 magistrats la préside, d'où le sentiment d'entre-soi. Et surtout, hein, et bien, véritablement, une chose assez étrange, puisque les ministres sont jugés par la CJR, mais leurs conseillers par les tribunaux ordinaires, ce qui conduit à une justice à 2 vitesses. Ainsi, par exemple, dans l'affaire qui concerne Édouard Balladur, et bien, l'ancien Premier ministre est relaxé, son ancien ministre de la Défense écope de sursis, mais Renaud Denodieu de Vabre et Nicolas Bazire, qui étaient tous les deux des collaborateurs de Balladur et Léotard, ont écopé de cette affaire de prison ferme en juin dernier. Ils ont fait appel.
La suppression de cette cour est un vrai serpent de mer.
Ah ben c'est même un serpent de mer fuyant, on va dire ça comme ça. Hein, promise par François Hollande en 2012, puis abandonnée. En janvier 2018, Emmanuel Macron souhaite la fin de cette juridiction d'exception. Ça figure d'ailleurs dans le projet de loi constitutionnel pour un renouveau de la vie démocratique présenté en Conseil des ministres le 28 août 2019. Mais Gilets jaunes plus Covid, c'est aujourd'hui... dans les limbes. Hein. 4 instructions sont en cours, dont la gestion de la pandémie de Covid-19 par Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, objet de plainte. Étrangement, je crois qu'on va en entendre reparler.
Hein. Étrangement, je le pense aussi. Et on vous retrouve dès lundi matin. Merci Jean-Mathieu Pernin. Bon week-end à vous. Dans un instant, Michel Simès. Ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous revenez sur le sujet que vous avez abordé hier à l'occasion de la journée mondiale contre l'obésité, mais vous vous adressez aux personnes les plus durement touchées, celles qui pensent d'ores et déjà à la chirurgie.
Oui, parce qu'il y a obésité et
obésité. Il y a l'obésité simple, hein, celle dont souffrent les personnes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, mais aussi l'obésité sévère quand cet indice de masse corporelle, l'IMC, est supérieur ou égal à 35. Et puis il y a l'obésité dite morbide quand l'IMC atteint ou dépasse 40. Mais d'abord,
on va rappeler comment chacun peut calculer son indice de masse corporelle.
Absolument. Voilà. Vous faites le quotient de votre poids en kilos par votre taille au carré en mètres. Exemple, si vous pesez 80 kg et que vous mesurez 1,80 m, vous divisez 80 par 1,8 au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même, vous obtenez 24 et des poussières, ce qui fait que vous êtes encore dans les clous.
D'accord.
Au-dessus de 25, vous êtes en surpoids. À 30 commence l'obésité, ouais. Puis plus ça monte, hein, plus les choses se compliquent. Et plus on pense, quand on est concerné, à un traitement par la chirurgie. On appelle ça la chirurgie bariatrique.
Bariatrique. En quoi consiste la démarche ?
L'idée, c'est de faire en sorte que le patient ait une sensation de satiété plus rapide, de manière à moins manger. Et pour ça, on va modifier la manière dont les aliments sont absorbés par le système digestif. Mmh. Et ça passe par la chirurgie qui propose deux options.
D'accord.
La première, c'est une chirurgie restrictive. On va réduire la taille de l'estomac, soit par la pose d'un anneau gastrique, soit en réalisant une gastrectomie. Dans ce cas, on retire une partie de l'estomac. Il faut donc moins d'aliments pour rassasier le patient. D'autant que cette ablation entraîne la diminution d'une hormone de l'appétit. Ah oui. Bien sûr, l'opération est irréversible.
Et la seconde option ?
La seconde option, c'est une chirurgie restrictive, mais aussi appelée malabsorbative.
Comment dites-vous ? Une chirurgie malabsorbative ?
Oui, non seulement la taille de l'estomac est réduite, mais en plus on diminue l'assimilation des aliments par l'organisme, d'où ce terme malabsorbative. Voilà. L'astuce consiste en un montage qui court-circuite une partie du système digestif. On va créer une petite poche avec une partie de l'estomac, ouais. Et on va la raccorder avec une anse de l'intestin grêle. Hein. C'est évidemment une intervention d'une grande complexité et qui a au moins une conséquence pour le patient, son organisme supporte assez mal les aliments sucrés après l'opération.
J'imagine que ce genre d'intervention ne se décide pas sur un coup de tête. Hein.
Sûrement pas. Et tout ça s'adresse aux patients qui ont préalablement essayé, souvent à plusieurs reprises et en vain, de perdre du poids par des moyens plus classiques, hein, comme la mise en place d'un programme d'exercice physique et le changement de régime alimentaire. Mmh. Alors il y a, vous vous en doutez, tout un processus à respecter. Processus qui inclut des échanges avec le chirurgien, mais aussi un nutritionniste et un psychologue. C'est à eux qu'il revient de dire si le patient peut supporter une telle opération, ouais. Aussi bien physiquement que psychologiquement. Les choses ne sont pas en un jour, mais demandent des mois. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. C'est du dernier recours, mais il faut reconnaître que c'est plutôt efficace si on ne juge le résultat qu'en fonction du chiffre qui s'inscrit sur la balance.
Merci beaucoup, cher Michel. On vous retrouve dimanche à 9h15.
Dimanche à 9h15 avec la petite bande pour l'hebdo.
Et d'ailleurs, avant de vous retrouver dimanche à 9h15 pour votre hebdo, vous serez l'invité de Jade et d'Éric Dussard ce samedi entre 11h30 et 12h30 pour On refait la télé, mes petits camarades. Dans un instant, nous partons en Irak à l'occasion de la visite du pape François. Le souverain pontife vient de décoller de Rome pour un voyage sur la terre des premiers chrétiens. Nous serons avec nos envoyés spéciaux dans la région de Mossoul.
RTL Matin.
Toute la journée sur RTL, chaque auditeur qui passe à l'antenne remporte une carte cadeau Lidl de 50 euros à dépenser dans l'un des 1500 magasins Lidl partout en France. Félicitations.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nous partons donc ce matin en Irak où le pape François est attendu aujourd'hui pour une visite historique. Il va rester 3 jours dans le pays pour aller à la rencontre des Irakiens et notamment des chrétiens d'Irak. Ils étaient 1,5 million à la chute de Saddam Hussein en 2003. Ils seraient aujourd'hui entre 300 et 400 000. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Avec Jonathan Griveaux, vous êtes nos envoyés spéciaux et vous vous êtes rendus à Karakoche. C'est la ville chrétienne la plus importante d'Irak où les habitants reviennent petit à petit. En 2014, ils avaient tous fui la ville à l'arrivée des djihadistes de l'État islamique.
Oui, imaginez une ville de 50 000 habitants désertée en seulement quelques heures. Le 6 août 2014, Daesh est aux portes de la ville. Nidam s'enfuit avec toute sa famille.
On n'a pas pris grand-chose, juste 2 couvertures pour mon petit-fils qui n'avait que 3 semaines. De l'eau, quelques vêtements, on est monté en voiture et on est parti.
6 ans plus tard, Nidam est fier de nous montrer sa maison juste à côté d'une église au toit rouge. À l'étage, dans le salon, il a raccroché les photos de sa famille au mur. 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Nidam n'a jamais douté, il savait qu'il reviendrait à Karakoche. Comme lui, 25 000 personnes se sont réinstallées. c'est la moitié de la ville.
Nos églises sont ici. Notre communauté est ici, ma maison est ici. C'est pour ça que je suis revenu et tous les autres aussi. C'est la terre de nos ancêtres et c'est notre ville. Je me souviens très bien du jour où je suis revenu en 2017. J'ai garé ma voiture ici, devant ma maison. On pouvait encore entendre les tirs au loin de Daesh qui battait en retraite. Franchement, on avait très peur. La ville était angoissante. C'était un sentiment étrange. Mais on est resté et on a bien fait.
En quelques années, Karakoche a repris vie. Les commerces ont rouvert, les enfants ont repris le chemin de l'école. Mais 43% de la ville reste encore à reconstruire. Dans les rues, à côté des maisons fraîchement repeintes, il y a aussi toutes celles aux murs noirs et aux vitres cassées. Comme celle du frère de Nidam, qui lui a décidé de partir vivre à l'étranger.
Quand on est arrivé, les maisons et les églises étaient détruites. Beaucoup de choses avaient disparu. Au début, ça a été très dur à accepter. Il a donc fallu se ressaisir et repartir de zéro.
Alors ces chrétiens, Émilie, ont-ils reçu des aides pour se réinstaller ?
Alors en fait, rien du gouvernement irakien, mais des organisations étrangères financent des programmes de reconstruction. Elles aident aussi certaines familles à remettre en état leur maison, à faire en fait le plus urgent. C'est grâce à ces programmes que Alaa a pu revenir en 2018 avec sa famille ici à Karakoche. Ce père de 40 ans nous accueille dans sa grande maison au mur vert. Après l'euphorie du retour, il a fallu faire face à la réalité. Pas de travail, peu d'argent. Alaa ne cache pas sa tristesse sous son grand chapeau noir.
On ne se sent pas à l'aise. Notre vie ici dépend beaucoup de celle du gouvernement irakien. Si le gouvernement est instable, alors notre situation ici va l'être aussi. Et pour être honnête avec vous, j'ai peur. J'ai peur qu'on soit encore obligé de partir, de tout abandonner, et que ça se fasse encore dans la précipitation. Nous, on veut juste avoir l'assurance qu'on peut rester ici et y construire notre avenir, qu'on puisse à nouveau vivre en harmonie avec nos voisins musulmans.
Et justement, à quelques kilomètres de là, à Mossoul, la deuxième ville d'Irak, des chantiers d'ampleur sont en cours. L'UNESCO finance un vaste projet de reconstruction des mosquées et des églises détruites par Daesh. Les ingénieurs chrétiens et musulmans travaillent ensemble pour faire renaître ces édifices centenaires avec l'espoir que les chrétiens reviennent. Car aujourd'hui, seulement quelques dizaines de familles se sont réinstallées à Mossoul. Elles étaient plus de 2000 avant l'arrivée des djihadistes de l'État islamique.
Alors vous le disiez, Émilie, hein, tous les chrétiens ne sont pas revenus dans leur maison. Mais où sont-ils ?
Alors les situations sont très différentes. Certains sont partis à l'étranger, d'autres vivent ailleurs en Irak. Et beaucoup ont aussi trouvé refuge au Kurdistan irakien, tout proche, et notamment dans sa capitale, Erbil. Les plus chanceux ont pu commencer une nouvelle vie et ont prévu de rester ici, au Kurdistan. Mais pour d'autres, la situation est beaucoup plus précaire. Belsam, par exemple, vit dans un petit appartement d'une pièce avec son mari et ses deux enfants. Cette mère de famille originaire d'un village chrétien près de Mossoul a vu tous ses proches partir au Canada, les uns après les autres.
Mon mari et moi, on espère juste pouvoir quitter l'Irak. Nos enfants n'ont aucun espoir ni avenir ici. Et surtout, je ne pense pas que la situation sécuritaire va s'améliorer. Donc je préfère partir.
Sans argent, sans travail, la famille a finalement décidé de faire une demande pour émigrer au Canada. Mais avec le coronavirus, tous les dossiers sont en attente. Malgré toutes ces difficultés, les chrétiens d'Irak sont unanimes concernant la venue du pape. C'est la lueur d'espoir qui leur manquait. Le souverain pontife ira justement apporter son soutien aux habitants de Karakoche, un symbole très important pour Alaa, le père de famille.
C'est plus qu'un message de paix. Nous sommes extrêmement contents de sa venue. Il vient nous voir, nous, ici. Ça montre qu'on n'est pas laissé de côté, qu'on compte. Des gens pensent à nous, notre religion ici à sa place. Nous sommes une communauté, c'est très important tout ça pour nous.
Il espère maintenant des actions concrètes de la part du gouvernement irakien pour pouvoir être rassuré quant à son avenir et sa sécurité ici en Irak.
Reportage sur place en Irak d'Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux, nos envoyés spéciaux. Et pour aller plus loin et comprendre les enjeux de ce voyage historique, faisons appel à notre brigade de l'actualité. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste religion, en plus de l'éducation à la rédaction d'RTL. C'est un voyage dont le pape François parle depuis plus de 6 ans.
Oui, il y tenait vraiment. En 2014, dès que Daesh envahit le nord de l'Irak, le pape fait savoir qu'il veut aller soutenir ses chrétiens contraints de fuir la plaine de Ninive et de s'exiler plus à l'est, à Erbil, chez les Kurdes irakiens. C'est ce que nous disait Émilie à l'instant. Pour des raisons de sécurité, en 2014, ce n'est pas possible. Il faut attendre à la chute de Daesh. Tout n'est que ruine. Le pape donne 200 000 euros pour contribuer à la reconstruction en vendant une voiture de luxe qui lui a été offerte. aujourd'hui. Il peut enfin venir réconforter ceux qui ont tant souffert, leur apporter, dit-il, la caresse affectueuse de toute l'Église et les encourager à tenir bon sur cette terre ancestrale. Les chrétiens d'Irak constituent l'une des plus anciennes communautés au monde, fondée dès le 1er siècle. François sera le premier pape à célébrer la messe dans le rite oriental, en chaldéen, une langue proche de l'araméen que parlait Jésus. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de s'adresser uniquement à la toute petite minorité chrétienne. Le pape vient parler à tous les Irakiens. Vous êtes tous frères, est la devise de son voyage.
Et il a choisi un lieu très symbolique pour une prière avec les représentants des autres religions.
Oui, la ville de Our, au sud de Bagdad, dans le désert. Our, en chaldée, où Abraham est né, selon la tradition. Abraham, le patriarche, l'ancêtre commun reconnu par les juifs, les chrétiens et les musulmans. On dit que sa descendance est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Tous frères, donc. À Our, on se trouve dans le berceau des trois religions monothéistes et demain, autour du pape, seront réunis tous les représentants religieux d'Irak, musulmans, chiites et sunnites, communautés chrétiennes et puis les autres minorités religieuses comme les Sabéens ou les Yézidis. Toute la mosaïque irakienne. C'est une rencontre pour encourager le dialogue interreligieux, un dialogue de réconciliation pour ensuite travailler ensemble à la reconstruction du pays et contribuer à ramener de la stabilité. Mais tous, ils vont d'abord commencer par prier ensemble. Il y aura des témoignages, des chants, des lectures de la Bible et du Coran. Je viens en pèlerin de la paix et de l'espérance, dit le pape François. C'était aussi ce que souhaitait Jean-Paul II en 99 et 2000, venir en Irak, à Our, plaider pour la paix. Mais Saddam Hussein s'y était opposé.
Alors François va rencontrer en tête-à-tête le chef spirituel des musulmans chiites irakiens. Dans quel but ?
Alors, dans le monde musulman, les sunnites sont plus nombreux que les chiites, mais en Irak, c'est l'inverse. Oui. L'ayatollah al-Sistani est la figure la plus importante du chiisme irakien. Présenté comme modéré, il s'est prononcé en faveur d'une coexistence pacifique des religions. Il reçoit peu, mais accueillera François chez lui, à Najaf, ville sacrée de l'islam chiite. C'est là que se trouve le tombeau d'Ali, que les chiites considèrent comme le successeur du prophète Mahomet. La rencontre devrait être brève. C'est le premier contact entre ces deux hautes autorités religieuses. Visite de courtoisie, a écrit le Vatican sur le programme officiel. Le pape François tend la main aux chiites après avoir tendu la main aux sunnites. Il a déjà signé avec le grand imam sunnite d'Al-Azhar en Égypte une déclaration commune sur la fraternité humaine et une dénonciation du terrorisme. Mais il avait fallu pour ça plusieurs rencontres à Rome, oui, au Caire, à Abu Dhabi. Il faudra probablement un peu de temps aussi avec les chiites. François est un homme tenace. On l'a dit, ça fait 6 ans qu'il parle de ce voyage en Irak.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Cette visite est très importante et pas seulement sur le plan symbolique, on l'a compris. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Il a plein de choses à vous raconter, croyez-moi.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
Cinq mois après la disparition de Juliette Gréco, une nouvelle compilation paraît aujourd'hui. Son nom, Liberté, Égalité, Féminité, triptyque choisi par sa petite fille. Elle se confie ce matin sur le rapport de sa grand-mère à la liberté, l'égalité, le féminisme et raconte les derniers mois de l'icône. Rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter.
Déshabillez-vous.
Restez avec nous. Laissez-vous tenter, c'est dans 30 minutes sur RTL. 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
34, un bon week-end se commence avec une bonne météo à 7 jours.
Et alors là, dire bon, ça.
J'ai l'homme qu'il faut, il s'appelle Louis Bonin. Cher Louis, nous vous écoutons.
Alors, est-ce que la météo sera bonne ? Je ne sais pas, mais enfin, voilà ce que l'on prévoit, oui, pour ce week-end, avec un temps de plus en plus ensoleillé, mais également de plus en plus froid. Alors, pourquoi est-ce que je me demande si c'est vraiment bien ? Parce que pour la nature, on va enchaîner la 4 journées avec des gelées le matin, quasiment partout. Donc, au moment où ça commence un peu à bourgeonner, où la nature s'y perd un peu, je ne sais pas si c'est une très très bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. L'air froid revient s'installer pour ce week-end, avec donc du temps sec, avec du froid le matin, des gelées quasiment partout. Peut-être quelques brouillards, mais très vite du soleil. Et ça, sur toute la France. Sauf, il y aura quand même encore quelques nuages sur les Alpes et sur les Pyrénées. Peut-être quelques flocons. Mais donc, en pleine, on aura du soleil. C'est la même chose pour la journée de dimanche. Quelques averses sous forme de pluie, de neige sur les Alpes, encore sur les Pyrénées. Mais ailleurs, du temps sec, ensoleillé et froid. Dégelé le matin et des températures en dessous des normales de saison l'après-midi. On sera entre 4 et 6, 7 degrés en moyenne dans la moitié nord et un peu plus de 10 degrés dans le sud. Et puis en début de semaine, je vous avais dit, on va attendre un peu parce qu'il est possible que l'air froid résiste. Bah oui, c'est ce qui va se passer. Lundi et mardi, on va encore avoir du temps sec, froid, donc plutôt ensoleillé, pas encore de perturbations. peut-être quelques flocons. Hein. Ça restera un peu bloqué sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées. Et la dégradation, elle arrivera après, pour la journée de mercredi, où là, bon, manifestement, on attend le retour des perturbations atlantiques, remontée des températures, mais de nouveau des nuages, de la pluie et de la neige en montagne.
Très bien. Alors dites-moi, il y a un cyclone du côté de nos amis calédoniens.
Oui, exactement. Alors c'est à surveiller. Il va passer ou longer les côtes. Pour l'instant, il est en phase de, d'intensification. On a des vents qui dépassent quand même les 200 km/h.
Oui.
Et alors on espère qu'en arrivant sur la Nouvelle-Calédonie, il perde un tout petit peu de son activité. Mais en tout cas, pour la journée de demain, on va connaître du mauvais temps, des pluies diluviennes. Et probablement, malheureusement, de fortes rafales de vent.
On va observer ça, on pense à eux, et on espère bien qu'il va se détourner un petit peu de notre côté.
Oui, on peut espérer ça. Hein, voilà. Les côtes.
J'ai oublié de dire que c'était la fête des grands-mères ce week-end.
Ah bah, oui.
Les Françoises, les dimanches, oui, bien entendu. Les Françoises, les René, les Nelly, les Andrea, on pense à aller, on les embrasse.
Oui, bah, ça vous convient. Se couvrent et mettent un petit chapeau et une écharpe.
Petit paletot. Voilà. Allez, on va dans un instant retrouver Vous êtes comme ça.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça nous fait découvrir ce matin le parcours hors norme d'une jeune femme amputée d'une jambe après avoir été agressée par son ex-conjoint. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Coraline Bergeron, c'est son nom, s'est reconstruite jusqu'à devenir aujourd'hui une athlète de haut niveau.
Oui, à l'université du sport de Poitiers, Coraline sort de sa voiture, démarche assurée malgré sa prothèse, elle a entraînement. La jeune femme est sixième joueuse mondiale de para-badminton dans le gymnase. Changement de prothèse.
J'ai une prothèse spéciale pour la pratique du badminton. C'est une lame en carbone que j'ai pour la pratique du badminton, mais je n'ai pas de genou sur cette prothèse. Donc en fait, je me sers uniquement de l'impulsion de la lame pour pouvoir faire mes déplacements sur le terrain dans ma pratique. Ça donne beaucoup plus d'impulsion.
L'échauffement commence sous la direction d'Élodie, sa coach.
Donc, petit pas, ouais. Ensuite grand pas. Tu alternes sur les lignes, ouais. Et ensuite pas chassé. 45 secondes au total. 15, 15, 15.
Ah, putain, j'ai cru que c'était 45 de chaque...
Non. 15 de chaque atelier. C'est parti.
Tom et son partenaire du jour impressionnés de s'entraîner avec une championne de France.
Elle m'a dit que ça devrait aller, mais on va espérer pour que ça le fasse. Ouais. Je la connais pas trop sur les terrains, mais même en dehors, dans sa façon de vivre tout ça, on voit vraiment que c'est une force mentale incroyable. Ça met pas d'avance.
L'entraînement se poursuit à haute intensité.
Ça, c'est bien. Dommage. C'est que là, tu étais parti un peu sur l'arrière. C'est ça qui a fait que le volant n'est pas passé.
Et cette athlète de haut niveau revient de loin, Philippe. Elle a subi, on le disait, une très violente agression de la part de son ex-conjoint.
Oui, en juin 2017, son ex-compagnon lui fonce dessus en voiture à vive allure. Le choc est effroyable et la jeune femme termine coincée entre deux véhicules. Malgré les soins, elle va perdre sa jambe droite.
Ben malheureusement, la jambe s'est infectée, gangrène, etc. Donc ma jambe était noire. Donc ils sont venus à 8 dans ma chambre pour me faire comprendre qu'en gros, il fallait m'amputer. Et en fait, moi, j'ai même pas réfléchi. C'est la première question directe, c'est mais est-ce que je vais pouvoir en faire du sport ? Moi, je pense qu'au sport. Et donc, du coup, ils m'ont dit, oui, vous allez avoir une prothèse, vous pourrez remarcher, vous pourrez refaire du sport. Réflexion, deux minutes, j'ai dit, demain matin, vous m'emmenez au bloc et vous faites ce que vous avez à faire.
Son agresseur a été condamné, mais le dossier repasse devant la justice à la fin du mois.
Alors, on entend toute la détermination de cette jeune femme et aujourd'hui, elle a des projets très ambitieux.
Oui, Coraline a changé de métier, elle travaillait dans la banque, elle suit désormais des études pour être éducatrice sportive spécialisée. Et puis, il y a les JO.
L'objectif, c'est me qualifier pour les Jeux de Paris et rapporter la médaille. Pour moi, ça sera ma revanche sur la vie, en fait. Je veux vraiment montrer que je ne m'arrête pas à ça et que j'ai encore plein de choses à faire. Je ne savais pas que j'avais ce mental pour m'en sortir aussi rapidement. C'est le badminton qui m'a aidée parce que le bad, en fait, ça a toujours été ma passion. J'en ai fait 8 ans quand j'étais valide. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée à m'en sortir et faire mon deuil rapidement de ma jambe.
Bravo à Caroline Bergeron et bonne chance pour les Jeux. Un extraordinaire exemple d'énergie et de volonté ce matin dont Vous êtes comme ça. Un reportage à retrouver sur notre appli mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40. Ce matin, Isabelle Choquet, l'itinéraire incroyable d'une enfant pas vraiment gâtée d'un village du Venezuela à l'Orchestre National de Lyon.
Elle s'appelle Glace Marcano et elle est à l'honneur cette semaine dans Paris Match. Sa vie a basculé il y a quelques années à Caracas. Elle a 18 ans, elle est violoniste et elle répète la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski. Pour lancer les cuivres, le chef d'orchestre lève sa baguette d'une main légère. Son autre main se serre en un poing rageur, son visage se crispe. Glace est fascinée, elle en perd le fil de sa partition. C'est une révélation, elle sera chef d'orchestre. Son violon ne lui suffit plus. C'est que Glace n'est pas une musicienne très classique. C'est une rockstar, un tempérament de feu. À l'école, elle était mi-clown, mi-cancre. Quand une école de musique a ouvert dans son petit village de San Felipe, ses parents l'ont inscrite pour canaliser son énergie. Je me suis passionnée pour les mélodies intenses, dit-elle, je déchargeais mon insolence. Des gamins qui s'essayent à la cinquième de Beethoven, on en trouve des centaines dans les villages vénézuéliens. C'est l'effet El Sistema, un programme unique en Amérique latine, créé en 75 pour aider les enfants défavorisés, dont Gladys Marley Vadel Marcano, enfant de la classe populaire qui a bien failli vriller à l'adolescence. J'avais décidé de rapper et de me lancer dans le graffiti. Sur tous les murs de la ville, elle tague son nouveau pseudo, Glace, qui va devenir son identité. Dans l'univers feutré du classique, forcément, ça détonne, car passé le bac, le goût du violon lui revient tout de même et elle prévient ses amis, vous verrez, un jour je serai chef d'orchestre et je vous dirigerai. Personne ne la prend au sérieux, elle part alors peaufiner sa technique au Sistema de Caracas. Mais son rêve, c'est l'Europe. Alors en 2019, sur Google, elle tape Concurso de Dirección Orchestra et elle découvre La Maestra, un concours réservé aux femmes chefs à Paris. Elle en est sûre, c'est la chance de sa vie. Sauf que la route est semée d'embûches. D'abord, les frais de participation, 150 euros dans un pays en crise, c'est une fortune, 5 années de salaire. Glace n'a pas un sou, elle vend des fruits pour survivre, elle ne mange pas tous les jours, elle s'en sortira avec une cagnotte. Mais pour être sélectionnée, elle doit aussi passer une audition en ligne. Or, au Venezuela, Internet fonctionne les jeudis de pleine lune, pour ainsi dire. Il lui faut 5 jours pour envoyer sa vidéo. Et puis elle ne parle ni français ni anglais, et quand elle reçoit la réponse, elle ne comprend que le dernier mot. Félicitations. Quand elle débarque à Paris le 15 septembre dernier, sa présence relève vraiment du miracle. Elle sait qu'elle porte l'espoir d'une famille, de tout un village. La forza del destino, c'est ce qu'elle se répète. La force du destin, c'est précisément l'opéra de Verdi qu'elle s'apprête à diriger. Glace guide les musiciens du Paris Mozart Orchestra à sa façon, rock'n'roll, fantasque. Elle chante, elle mélange les rares mots d'italien et d'anglais qu'elle connaît, elle s'exprime par onomatopée, elle sourit, elle grimace, elle gesticule, elle saute sur place aussi. Et quand l'ultime note résonne, c'est un tonnerre d'applaudissements, le public est soufflé. Glace Marcano n'a pas gagné le concours, mais elle a décroché le prix de l'orchestre et surtout, elle a ému aux larmes certains musiciens. Elle a 25 ans, on la présente comme l'avenir de la musique classique, une révolution à elle seule. Depuis, elle est restée en France. Elle a dirigé à Tours, à Lille, à Cologne et à Lyon pour les victoires de la musique classique. Elle sait qu'elle a encore beaucoup à apprendre, mais maintenant, vous connaissez son nom. Glace Marcano, une ascension peu classique, portrait dans Paris Match cette semaine.
Et un parcours très émouvant. Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve lundi matin.
À lundi,
bon week-end à vous. Dans un instant, Laurent Gérard.
Et le matin,
avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Tandis qu'un septième opérateur de trottinettes électriques s'implante à Paris, des associations pointent la dangerosité de ce véhicule, déplorant une augmentation considérable de blessés et même parfois de morts. Faisons le point avec l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë.
Ouh, j'ai peur. J'ai peur, Mademoiselle Jade. Je frissonne de terreur, Monsieur Calvi.
Oh, Bertrand.
Ces chiffres d'accidents de trottinettes sont effectivement alarmants.
Ce ne sont pas les chiffres qui m'alarment, Mademoiselle Jade. C'est l'éventualité d'une interdiction de ce formidable moyen de transport écolo et citoyen. Ça me glace le sang. Glac, 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 glac.
Oui, mais enfin, quand même, il faudrait peut-être prendre des mesures. Les conducteurs de trottinettes prennent des risques énormes.
Que voulez-vous, Mademoiselle Jade? Il faut souffrir pour être belle. Oh, qu'elle est jolie.
Mais je vois pas le rapport.
Réfléchissez, Mademoiselle Jade.
Oui, j'essaie.
Se rendre à toute vitesse.
Oui.
Dans un bar à barbe.
Ah.
Pour avoir une belle coupe. Oui. Oh, c'est joli, c'est tout bien carré. Ça mérite de prendre quelques risques tout de même.
N'êtes pas sérieux là, Bertrand Delanoë.
Et faire de la trottinette, contrairement à ce que prétend votre étude, les rabat-joie, permet de rester en forme.
Parce qu'on fait du sport quand on fait de la trottinette, c'est ça?
Que nenni. Aujourd'hui, les trottinettes sont électriques. Oh la ringarde.
Oui, merci. Je vois donc pas le rapport avec le fait de rester en forme.
Faire de la trottinette à Paris permet d'atteindre un bar à jus. Gloup, 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 gloup. Oui. En deux temps, trois mouvements. Et qu'est-ce qu'ils veulent les Parisiens, les Parisiennes et les bobos? Boire un bon jus, boire un bon jus détox au pissenlit bio. Oui. Miam, mm, miam, miam, c'est bon pour purifier son corps. Sprouch, plaque.
Oui, enfin bon.
Écoutez, quoi ce bruit-là?
Non, n'insistez pas, monsieur Calvi. Enfin, parfois, ce sont des accidents mortels.
Vous êtes pisse-froid, mademoiselle Jeanne. Tenez-moi, oui. Ce matin, oui. J'ai eu un bobo avec un bobo.
Ah bon? Ah.
Mais je me suis cassé un membre et j'en fais pas toute une histoire.
Vous vous êtes cassé quoi, vous?
Un ongle. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ouh, oui. Ça fait mal. Et bien, grâce à ma trottinette qui tape des pointes à 100 km/h, j'ai atteint un bar à ongles en quelques minutes. Ou un styliste conseil angulaire m'a sauvé la vie. Youpi!
Mes chers compatriotes, je suis là. Je suis avec vous. Je vous comprends. Je ne vous abandonnerai pas. La France est un grand pays. La France va mieux. N'écoutez pas les Cassandres qui vous disent que le chômage augmente. Ils vous mentent, vous les vilains. Notre pays en a vu d'autres. Alors, mes chers compatriotes, au moment où nous traversons une petite crise passagère, j'ai besoin de vous. Le peuple de gauche, j'ai besoin de vous. Je demande aux artistes, aux cinéastes, aux intermittents, aux intellectuels, aux infirmières et aux éboueurs de se mobiliser. Et les yeux dans les yeux, je vous le promets. Le chômage, la vieillesse et la maladie seront vaincus. Je m'y engage. Vive la République et vive la France.
Face au chômage qui explose, les syndicats ont aussi leur mot à dire. Écoutons comment l'inoubliable Henri Krasucki, charismatique leader de la CGT, aurait su trouver les mots pour en parler.
Mais le problème... Qu'est-ce que c'est le problème du chômage? Le problème, c'est qu'on n'a plus d'emploi. Il y en a plus des emplois. Chez Arcelor, chez Petroplus, chez Peugeot-Honnay. Alors, que nous, à la CGT, on dit qu'il suffirait qu'on ait du travail pour qu'on crée des emplois. Alors, quand j'entends dire que le déficit de la France est trop grand pour donner ses sous à nous autres, les ouvriers, ben, qu'est-ce que je dis? Hein? Ben, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'au lieu de spoiler les ouvriers, il faut prendre des sous ou qu'il y en a. Parce que si on leur prendrait 100 000 millions anciens, 100 000 milliards, attendez, j'ai fait une erreur dans les chiffres. Bien, si on faisait payer les patrons, il y a longtemps qu'on aurait mis le SMIC à 10 000, 100 000. Attendez,
Parmi les communicants incontournables, Yves Montand, pour nous parler de la crise.
La crise? Mais quelle crise? Moi, le papa, je dis toujours « vive la crise ». Ça, c'est ça qu'il devrait dire, le président. Vive la crise. Il doit faire plein d'émissions sur la crise. Et faire comme moi, se faire payer 800 000 francs par émission, pour montrer que quand on veut bien, la crise, c'est pas la fatalité. C'est ce que je dis toujours à Simone Signoret. Oui. Moi, pendant la crise, je prospère. Comme elle, la Simone. Elle est socialiste, la Simone. Vous avez vu comme elle est prospérée, Simone? Ah, faut dire qu'elle biberonne. Ouh, elle me sert la bibine. Ah, moi, je dis que la crise... Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je dis que la crise appartient à ceux qui s'adaptent. Il faut que le président y s'adapte. Moi, je m'adapte. J'ai vu bien que sous Tito, j'étais didiste. Sous Tonton, j'étais dentiste. Sous Valéja, j'étais solidarnosque. Et si bon, quand on n'a pas un rond, d'emprunter de partout, se rembourser du tout. Et voilà.
Mais qu'est-ce que tu veux?
Mais parfois, ce sont les artistes qui savent le mieux mettre des mots sur les grands drames. Nul doute que la crise aurait inspiré Léo Ferré.
La crise. Hein, en ces temps, on voit pas l'herche. Pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con ou bien secte.
Ils ont voté, puis
la crise, mon cul. La crise, c'est eux qui la font. Et nous, on va se casser la gueule. La gueule.
La gueule.
La gueule des ministres. Vincent, ça va tout péter. On va tous crever. La mort. La mort.
La mort.
Et puis la mer. Ah, les temps sont difficiles. On va tous crever.
Ah mon Dieu, quelle brochette. François Mitterrand, Henri Grazucchi, Yves Montand, Simone Signoret, Léo Ferré. Bon ben voilà, vous êtes comme moi, vous avez rajeuni de 30 ans. Et vous pouvez en plus retrouver Laurent Gérard le week-end sur l'antenne d'RTL avec mes camarades Christophe Paco à 6h15 et Stéphane Carpentier à 7h50. Oh c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? C'est musique de film. L'aile ou la cuisse? Vladimir Cosma, mais bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on écoute la musique de Lula Cuis? Eh bien parce que dans quelques instants, on va retrouver Cyril Lignac qui va nous donner notamment quelques idées pour ne pas pleurer en épluchant nos oignons. Vous voyez? On s'intéresse à tout, Cyril. Oh, ça va, vous. Hein. Arrêtez de rire. Allez, à tout de suite.
Il n'est pas là, le patron.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Toutes les questions de nos auditeurs sont les bienvenues. Pour cela, je vous le rappelle, rtl.fr/participer. Et là, nous avons une question de Loïc. Il est de Saint-Étienne, dans le département de la Loire, bien entendu. Comment éplucher les oignons sans pleurer et comment bien les caraméliser sans les brûler et éviter qu'ils restent blancs? Vous voyez, double question.
Deux conseils en une. Alors, j'ai tout entendu. On allume une allumette, on met un masque, on met des lunettes. Ça, c'est...
Un masque et un tuba, bien entendu.
Ça me fait toujours rigoler. Donc, en fait... Il faut savoir que dans l'oignon, il y a des, entre chaque couche de l'oignon, il y a cette petite pellicule qui contient un enzyme qui dégage à la coupe ce petit gaz qui fait pleurer. Alors, il n'y a pas de règle. Il y a des oignons plus ou moins forts, d'autres qui font pleurer, d'autres moins pleurer. Déjà, la première des choses, c'est de ne pas trop mettre la tête au-dessus de la planche.
On est d'accord. Et est-ce qu'on est d'accord aussi pour dire que l'oignon rouge fait moins pleurer?
Alors, ça, donc, une fois de plus. Okay. Non, mais il y en a qui. Alors, il y a les oignons rouges qui peuvent faire moins pleurer. Il y a les oignons doux aussi, des cévennes qui font moins pleurer. Mais très sincèrement, on peut tomber sur un oignon doux, des cévennes capricieux, et on va pleurer. Alors, je dis toujours, on prend l'oignon, on le passe sous l'eau, déjà une première fois. Ensuite, je le coupe. J'évite de mettre forcément trop la tête au-dessus de la planche.
Cher en se tenant à 20 cm.
Exactement, je coupe un peu. Et sinon, ce que l'on peut faire, c'est on enlève la première couche d'oignon, et là, on enlève la première peau. Et là, ça peut faire éviter de pleurer, mais vraiment, on recule un petit peu.
Vous m'avez dit qu'il faut bien affûter ses couteaux.
Oui, parce qu'au plus, on va le couper correctement, au moins, on va écraser l'oignon. Et donc, du coup, en plus, c'est bon pour la cuisine, parce qu'au lieu de laisser le jus de l'oignon sur la planche, parce qu'on a un couteau mal aiguisé, on le coupe de manière franche, et le jus d'oignon, il va se retrouver dans la casserole.
Très bien.
Pour caraméliser l'oignon, alors là, il n'y a pas 36 solutions. C'est déjà, on met toujours un petit peu d'huile et de beurre, pour pas que ça brûle. Mais vraiment, il faut y aller à fond dans le beurre. C'est le beurre avec les oignons qui y apporte sa caramélisation et surtout ce bon goût. Vous savez, quand on les fait cuire avec le beurre demi-sel et qu'on les met dessus le steak, là, haché, ou le steak, une bonne entrecôte, ça c'est très bon. Alors si on veut les caraméliser pour avoir un goût sucré, on y ajoute une petite cuillère à café de miel.
De miel.
Et là, on a la sucrosité qui sort de l'oignon encore plus.
La sucrosité sans le sucre, ce qui est
exactement
encore mieux. Bon, voilà, je crois que
naturel.
Bah oui. Voilà, vous dites merci à Cyril Lignac, s'il vous plaît. Hein, allez, écrivez-lui de temps en temps pour le remercier. Très bon week-end à vous et à lundi, Cyril.
Merci, à lundi.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Merci d'écouter RTL. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Jérôme Florent.
Le pape François en vol pour Bagdad. Il entame une visite historique de 3 jours en Irak, malgré les risques sanitaires et sécuritaires. Un confinement total est d'ailleurs en vigueur depuis hier soir. Le souverain pontife doit notamment se rendre à Mossoul, l'ancien bastion du groupe État islamique. Alerte maximale en Nouvelle-Calédonie. La France demande aux habitants de rester chez eux à partir de demain 6h, 20h, heure de Paris. Le cyclone Niran se trouve en ce moment à 750 km des côtes.
Nouveau coup d'accélérateur sur les vaccins. Les plus de 50 ans avec facteur de risque pourront recevoir une injection en pharmacie à partir du 15 mars. Objectif du gouvernement, 20 millions de Français protégés d'ici la mi-mai. Le gouvernement qui encourage aussi fortement les soignants à se faire vacciner. Dans les hôpitaux et en ville, ils ne sont que 30% aujourd'hui. Le Pas-de-Calais, seul nouveau département sous cloche le week-end. Le confinement commence demain à partir de 8h. 23 départements sont désormais sous surveillance renforcée. Les commerces de plus de 10 000 mètres carrés doivent fermer dans ces zones. Près d'une semaine après l'agression d'un photographe à Reims dans le quartier de la Croix-Rouge, Gérald Darmanin se rend sur place aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur doit notamment rencontrer l'équipe du journal où travaille le photographe qui est toujours plongé dans un coma artificiel. Un suspect a été mis en examen.
Jérôme Florin, merci. On se retrouve lundi,
je pense.
Je l'espère aussi. Bon, du coup, je vous souhaite un